parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il est 21h, c'est l'heure de Confidence. Donc à vos téléphones, les premiers arrivés, les premiers servis, les mieux servis, c'est vous qui donnez le thème ou les sujets hein, que vous aimeriez que nous abordions à l'antenne, eh bien c'est vous les premiers. Donc on vous attend au 01 53 48 3000. Venez nous dire de quoi vous voulez qu'on parle ce soir. On va dire bonsoir à Anthony qui réalise cette émission et qui vous répond gentiment au standard et qui gentiment m'a ramené, comme souvent, hein, ça devient une habitude, un thé à la menthe. Merci mon Anthony.
Bonsoir Vanessa, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et avec grand plaisir Vanessa, c'est toujours un honneur pour moi de t'offrir un excellent thé fait avec délicatesse.
Bah écoute, en tous les cas, il a le goût de la délicatesse, c'est sûr. Hein. Merci.
Ça, j'en doute pas.
C'est gentil. Il est adorable, hein, Anthony. Vous voyez comme il est gentil. Eh oui, la galanterie, hein, il n'y en a pas d'âge. Hein. Voilà. Ben oui.
Arrête, je vais rougir.
Bah écoute, tu peux, hein, personne ne te voit, à part moi.
Ah, écoute. Hein.
Et puis avec les lumières tamisées du studio, on n'y voit pas grand-chose.
C'est un
grand
privilège
chose.
Que tu puisses me voir, tu vois. Au moins, c'est bien, c'est que les auditeurs et auditrices. Voilà. Peuvent penser à quoi je ressemble, tu vois.
Imaginez, voilà. Bon, bah écoutez, c'est un très beau garçon, voilà.
Très grand.
Très grand. Tu mesures combien, 1m90 au moins?
96.
96, oh, 2 mètres. Il reste 4 cm pour 2 mètres. C'est vrai que je lève la tête pour te parler.
Dans l'ascenseur.
Là, ça va, je suis assise. Dans l'ascenseur, quand on descend. Oh, voilà. Ah ouais, c'est vrai qu'il est très grand, 1m96.
Je fais les poussières, tu sais, au plafond.
Ah ouais. Mais ils sont grands, tes parents?
Mon père, ouais, il fait un 85, ma mère un 60 et quelques. J'ai un de mes grands frères qui fait 1,93.
Ah ouais.
Mais du coup, là, j'ai battu le record.
Ah oui, alors 96, faut que tu t'arrêtes là.
Je pense que c'est bien pour tout le monde.
Tu peux nous dire ce qui se passe là-haut, derrière les nuages?
Eh bien, écoute, là-haut, c'est souvent la blague qu'on m'a fait.
On te l'a fait déjà?
Toujours.
Oh, ça ne m'étonne pas.
Non, mais
ça
te
va bien parce que tu es bien proportionné.
Bah, écoute.
C'est vrai? Bien proportionné. C'est bien d'être grand.
Oui,
l'avantage.
Ça a des avantages.
Exactement. De voir un petit peu l'horizon, hein, c'est vrai que.
De surplomber la vallée parisienne dans le brouillard qu'il y a eu ce matin.
Voilà, c'est bien dit.
Je suis comme la Tour Eiffel, en fait. Tu vois, j'éclaire tout Paris.
Tu éclaires. C'est vrai, tu éclaires. Et tu éclaires les ondes. Voilà, chers amis, la bonne humeur, c'est ici que ça se passe. Venez, nous savons faire pour vous remonter le moral s'il est au plus bas en ce moment. Si vous avez passé un week-end un petit peu morose, eh bien on est là pour vous remonter le moral, pour vous apporter de bonnes ondes au 01 53 48 3000. Alors la semaine dernière, nous avons abordé beaucoup de sujets. Si vous voulez ce soir, eh bien vous pouvez piocher hein, dans les sujets de la semaine dernière, par exemple. Alors j'ai reçu des messages de personnes qui se plaignaient de ne pas être passées à l'antenne. Désolée, mais bon, c'est vrai que bon, vous faites la queue, hein, comme tout le monde, et des fois vous n'avez pas possibilité de passer à l'antenne. Mais là, par exemple, voilà, le standard est vide, vous pouvez venir maintenant, par exemple. Mais c'est vrai que vous êtes bizarres, les auditeurs.
À 22h30, j'ai regardé, entre 22h15 et 22h30, ça court au portillon.
Oui, ah oui, ça se bouscule. Et puis en plus, ça se plaint, ils sont pas contents, ça tempeste, pourquoi on peut pas passer? Mais c'est maintenant qu'il faut venir. Allez, dépêchez-vous.
Moi, je vous attends. Hein.
Alors, ce qui se passe, c'est que les premières minutes, la première heure ou la première demi-heure, ben, ils attendent. Ils attendent le premier qui appelle, qui donne un sujet, comme ça, qui se lance dans un sujet, dans une discussion. Et puis surtout, quand c'est un peu polémique, alors tout le monde vient, là, tout le monde accourt. Non, moi, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Attends. Voilà, on peut pas toujours faire... dans les polémiques, hein, on peut aussi parler tranquillement. Je sais pas, venez nous parler de la douceur de vivre. Ça peut arriver aussi. Je bois un peu d'eau. Tu peux meubler?
Oui, bah écoute, s'ils peuvent nous dire ce qu'ils ont fait ce week-end. Enfin, pardon, ce week-end, je suis parti en famille, j'ai vu mes neveux. Voilà.
Ah bah voilà. Voilà, il a vu ses neveux. C'est bien la famille. La famille, c'est précieux.
On n'a qu'une seule famille. On profite.
Je sais que bientôt tu vas aller voir ta grand-mère. Ouais, ouais. Tu vois, j'en sais des choses. C'est important. C'est important la famille, chers amis. Vous voyez, Anthony est très familier. Il a raison. Et il en profite. Il profite de sa famille. Il faut profiter de vos familles. et arrêtez de rester derrière vos écrans là.
C'est ça le truc, c'est quand on vit dans une génération où en fait nous les jeunes et même les moins jeunes, bah, en
même
fait,
t'inquiète pas, ma génération ils sont pareils. Hein. Moi j'en vois autour de moi.
Tout le monde est sur les écrans, tout le monde parle par message et il y a plus vraiment de relations réelles, c'est que du virtuel et c'est ce qui est dommage.
Ouais.
Et après on se plaint quand on a perdu un être, bah, on se plaint de pas avoir profité plus longtemps.
C'est ça.
Profiter dès maintenant.
C'est ça. Après on vit avec des regrets, des remords. Et on se dit, oh, j'ai pas suffisamment profité de la personne. Et pourtant, je l'aimais très fort et le temps est passé. J'ai pas vu passer le temps. Non, c'est pas que vous n'avez pas passé le temps. C'est que, justement, c'est le temps qui ne vous voit pas passer. Le problème, il est là. C'est dans ce sens. Donc, profitez du moment présent, profitez de ceux qui sont là encore. Je dis encore parce que nous ne sommes que de passage. Alors, je pensais à un truc là ce week-end, puis j'en ai parlé comme ça à des amis. Alors donc, c'est la nuit quand on dort. J'en ai parlé ce matin rapido dans les petites annonces parce que c'était pas ni l'endroit ni le moment. La nuit on rêve.
Oui.
On rêve quand on dort, on rêve. Bon, on trouve ça normal, mais c'est mystérieux les rêves.
C'est vrai.
C'est extraordinaire, c'est quelque chose de waouh. Il n'y a pas plus pire mystère, déjà la vie par elle-même, de venir au monde, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans l'étonnement, toujours être étonné, oui, c'est ça. Et puis surtout, ne pas être, de trouver tout normal, hein, voilà, que tout rentre dans la normalité et dans la banalité. Non, la vie par elle-même, eh bien, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire, venir au monde. Vous vous rendez compte ?
C'est un jeu.
Et c'est extraordinaire. T'imagines un bébé qui vient au monde, un être humain, voilà, qui sort d'un être humain, quoi. Un être vivant qui sort d'un être vivant après 9 mois et qui devient un individu comme tous les autres. Il y a déjà ça, déjà, comme mystère. Et puis il y en a d'autres. Il y en a un autre, moi je pensais au rêve. Je me disais, rêver la nuit. Donc, c'est-à-dire qu'on trouve ça tout à fait normal. Ça devient la normalité. Et quoi de plus ordinaire et normal que de rêver? Il y a personne qui se pose des questions, si peut-être rapido comme ça. T'as des gens qui disent, oh, c'est marrant les rêves, alors qu'ils cherchent toujours les interprétations, tout ça et tout ça.
Les rêves prémonitoires.
Voilà, qui cherchent toujours quelque chose, interprétation ou pas, peu importe. Mais derrière ce fait extraordinaire et étrange, j'ai envie de dire. On pourrait se poser la question, comment se fait-il que durant nos vies nocturnes, quand on dort, eh bien, on vit plein de choses comme si c'était vrai, comme si c'était la réalité. On palpe les choses, on touche les choses, on touche le froid, on touche le chaud, on ressent des sensations, des odeurs, on ressent le froid, le chaud, les odeurs. Des sensations de peur en même temps, vous voyez, comme pendant pendant l'éveil, quoi. Les peurs, etc., les frayeurs, les joies, tout, les mêmes sensations. Dans nos rêves, on rencontre des gens qu'on connaît ou pas, et qu'on trouve normal de comme si on les connaissait. Quoi d'autre? Des lieux qu'on découvre. Et puis des fois, on rentre, comme on rentre chez soi, on sait que c'est notre chez soi. Et dans le rêve, c'est tout à fait normal, on est à l'aise. Mais quand on y pense, eh bien, après notre réveil, on se dit, mais il n'y avait rien, ni les meubles, ni l'endroit, ni le lieu, ni l'exposition, ni rien. Il n'y avait rien à voir avec notre habitation habituelle. Mais pourtant, dans le rêve, on trouvait ça normal et on pensait que c'était vraiment notre habitation. Voilà, on était habitué dedans, quoi, d'y vivre. Alors, donc, je vous dis tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc le rêve, dans le rêve, l'histoire, eh bien dans l'histoire, on est poussé à croire que l'endroit dans lequel on vit, alors que durant notre éveil, dans la vraie vie, eh bien on connaît pas du tout cet endroit, mais dans le rêve, on le connaît, c'est comme si on le connaissait toujours, on était né dedans et on est à l'aise, on est parfaitement à l'aise, on n'est pas étonné, on découvre pas, vous voyez? Donc avec tout ça, et puis les personnages qu'on rencontre, des fois on les connaît pas, mais c'est comme si on les connaissait, tout est normal. C'est pour vous dire que si on fait le parallèle avec la vie, entre guillemets, normale durant notre éveil, vous trouvez pas, vous essayez pas de, de chercher, de faire des comparaisons et de vous poser des questions. Ben, les questions, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement se dire, si, durant nos rêves, la nuit, parce que toutes les nuits, on rêve, durant nos rêves, eh bien, on est dans des endroits pas inconnus, apparemment, alors qu'on ne les connaît pas, mais dans le rêve, c'est comme si on les connaissait toujours. Les gens qu'on rencontre, pareil, c'est comme si on les connaissait toujours. Rien ne nous étonne dans un rêve, on est dans notre monde, à nous. Alors que c'est un monde qu'on ne connaît pas en réalité. Alors, donc voilà ce que je veux dire par là. Alors, le parallèle, le truc, c'est quoi? C'est, dans la vie de tous les jours, vous vivez des situations que vous trouvez normales. Vos collègues, vos proches, vos amis, le train-train, tout ça, votre maison, vous prenez l'ascenseur, etc. Voilà. C'est votre habitation, vous la connaissez, vous n'êtes pas étonné de rentrer tous les soirs chez vous, de mettre la clé dans la serrure. Vous n'allez pas mettre la clé dans la serrure d'un autre appartement, d'une maison ou dans une autre adresse. Non, vous ne trompez pas d'adresse, etc. C'est exactement comme dans le rêve. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Alors je me suis demandé, si, c'est pas la première fois que je me posais la question, si nous ne sommes pas là, actuellement, là, pendant que je vous parle, dans la vie, entre guillemets, réel, est-ce que nous ne sommes pas dans un rêve? Alors il y a des gens qui vont dire ah oui, mais dans le rêve il est court puisque il dure. Oui, mais ça c'est le temps, l'espace-temps, c'est le temps, comment dire, du rêve, c'est le temps qu'on lui attribue, voyez-vous, parce que quand vous êtes dans votre rêve, vous vivez plein d'histoires dans le rêve, c'est comme si vous viviez une vie. Vous changez d'endroit, de lieu, il se passe des choses extraordinaires, des aventures. Dans le rêve, le temps n'existe pas. Il semble long. Ben, dans la réalité, là, le temps vous semble long aussi. Alors, donc, peut-être qu'on serait dans un rêve, voyez? Et que le jour où on part de cette vie, j'aime pas dire la mort, hein. Parce que pour moi, la mort n'existe pas, je crois pas à la mort. Donc, on part dans une autre dimension. Mais quand on part de cette vie pour aller dans une autre dimension, eh bien, c'est peut-être pour nous réveiller, comme quand on se réveille le matin après avoir rêvé pendant la nuit des situations qui nous semblaient vraiment la vérité, la réalité. Eh bien, le jour où on part de ce monde, peut-être qu'on va se réveiller dans un autre monde, voilà, ailleurs, dans une autre dimension, en se disant « Oh, dis donc, ce rêve, tout simplement, c'est un des rêves, en fait. Et peut-être qu'on a plusieurs vies et qu'on a plusieurs rêves et qui nous semblent longs, mais en vérité, il n'est pas long. » Il est étiré, c'est élastique. Pourquoi? Parce que à l'échelle de l'univers, le temps n'existe pas, il n'est pas le même. Donc, dans l'autre vie dans laquelle on va se retrouver après cette vie, après qu'on soit parti, eh bien, ce sera le temps n'aura pas plus duré que le temps d'un rêve pendant la nuit quand vous dormez. Si j'arrive à me faire comprendre, vous voyez. Donc, le temps lui donne beaucoup d'importance, nous les humains, mais en vérité, le temps n'existe pas. C'est nous qui lui donnons cet aspect et cette nature, mais en réalité, peut-être que le temps n'existe pas. Demain, quand on va se réveiller, c'est-à-dire quand on va mourir, on va partir ailleurs, eh bien, le temps, quand on va se réveiller, c'était un rêve. C'était un rêve qui n'aura pas duré plus que ça. Voilà. Tout simplement, et on va se retrouver dans une autre dimension, avec d'autres personnages, peut-être, etc., etc. Voilà. Donc moi, je veux bien croire que cette vie n'est qu'un rêve. Et les sensations, les souffrances, les douleurs qu'on ressent dans ce monde, c'est exactement les mêmes sensations que vous ressentez durant vos rêves nocturnes, dans la nuit, quand vous rêvez. Vous avez mal, vous pleurez, vous souffrez, voilà, etc. Eh bien, dans cette vie, on a les mêmes épreuves. Alors donc, pour moi, cette vie n'est rien d'autre qu'un rêve. Et quand on va partir... On va juste se réveiller parce que l'âme ne meurt pas. L'âme, eh bien, elle est là et puis elle rêve, tout simplement. Je sais pas ce que vous pensez de tout ce que je vous dis. J'essaie d'expliquer au mieux. C'est pas évident de l'expliquer avec les mots parce que c'est pas évident de parler de ces choses-là les mots n'existent pas dans le dictionnaire pour les expliquer puisque elles sont inexplicables. Vous voyez, ça relève vraiment de quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie, quoi. Voilà ce que je veux dire. Je bois un peu d'eau, hein, j'ai entendu boire. Voilà, j'aimerais bien que vous veniez me dire ce que vous pensez de tout ça. D'accord ? 01 53 48 3000, on a Safia, hein, c'est ça. Donc on accueille Safia qui nous appelle c'est Safia de la Courneuve, je crois. Bonjour ma Safia, comment vas-tu ma chérie ? Ça va ?
Oui.
Ben écoute, ça me fait plaisir de t'entendre, mais je t'entends pas bien. Tu m'entends, Safia ? Oh, c'est dommage, parce que Safia, elle a toujours des choses très intéressantes à dire. Safia, essaye de t'exprimer, essaye de bouger. C'est bizarre. La Courneuve, c'est à côté, en même temps. Safia, tu es toujours là ? Je t'entends pas, ma chérie. Allô, 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 allô ? Pardon ?
Je te rappelle sur une autre ligne.
Rappelle-moi sur une autre ligne. Hein, peut-être qu'on va mieux s'entendre. Des fois, avec le fixe, ça marche mieux. Hein, des fois, avec le fixe. Essaye avec le fixe, peut-être. Parce que les portables, tout dépend de la situation géographique où vous vous trouvez. Hein. Voilà, donc si ce thème vous parle, eh bien, venez en parler. Chers amis, venez nous donner votre avis. Est-ce que vous pensez comme moi que nous vivons peut-être dans un rêve, voilà, et que les rêves la nuit, c'est pour nous donner, c'est des messages que l'univers nous envoie pour nous donner un aperçu de notre réalité sur Terre, pour nous dire voilà en vérité ce qui se passe, et que nous dans ces rêves on y voit autre chose, on y voit certains y voient de la prémonition, oui j'ai rêvé ça parce que ça veut dire ça, voilà. D'autres vont dire, scientifiquement parlant, oui, les rêves, c'est pour refouler, je ne sais quoi, comme faire refouler, c'est pour bien tout ce qu'on emmagasine, hein, comme disons comme stress, etc. Eh bien, on se vide dans le rêve. Je ne sais pas comment on se vide parce que dans le rêve, en vérité, on se rajoute du stress parce que des fois, c'est de drôles d'aventures, hein, les rêves, hein, vraiment. Non, moi, mon explication, elle est telle quelle. Voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je dis pas que c'est la vérité, mais pour moi, c'est ma vérité à moi. Voilà, la déhire. Safia de la Courneuve.
Oui.
Oui, ma chérie. Ah, c'est mieux là. Ah oui. Voilà. Ouais. Safia, je te reprends juste après. Ben, t'arrives. On a une petite pause, ma chérie. Tu pars pas. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
01 53 48 3000, vous êtes sur Beurre FM. Allez, on se réveille. Venez, c'est un super sujet, je trouve. Hein. Vraiment un sujet qui mérite d'être abordé, que chacun vienne donner son point de vue, son avis, hein, ce qu'il pense, voilà. Moi, je pense que nous sommes dans un rêve, pourquoi pas, et que les rêves de nuit, eh bien, c'est juste pour nous donner un aperçu de ce que nous vivons ici, sur Terre, que nous sommes dans un rêve, un grand rêve, tout ce que vous voulez, et que quand on part de ce monde, eh bien, on part, on meurt, mais c'est pas du tout la manière dont on nous raconte. Alors chacun, bon, moi je respecte, hein, chacun parle, il y en a qui parlent d'enfer, paradis, etc., ça se respecte complètement, mais moi je pense que je ne crois pas à tout ça, hein, je crois pas à l'enfer, le paradis, enfin ça me regarde moi, hein, voilà, et je respecte toutes les formes de croyances, bien entendu, mais moi je ne crois pas à tout ça, je pense que ça ressemble trop aux histoires de l'ogre, etc., qu'on nous raconte quand on est petit, et que ça ressemble beaucoup, un petit peu, aux fantasmes des hommes. Donc non, moi je pense que nous sommes dans un rêve, voilà, et que quand on partira de ce monde, on se réveillera, et on se réveille dans un autre monde, normal, hein, normal, avec des êtres autour de nous, normal, en se disant, ah, ben dis donc, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Ah oui, c'est un drôle de rêve. Voilà, 01 53 48 3000, Safia.
Oui, Vanessa.
Oui, ma chérie. Alors bah,
c'est pas un sujet, un sujet à la fois complexe et à la fois qui est présent dans la vie de nous tous, le rêve. Et moi, je sais que personnellement, je suis très, attentive. Je porte très attention à mes rêves, parce que comme tu le dis, il y a l'ordre de notre vie matérielle, physique, corporelle, comme tu dis. Comme tu vois, tu nous as indiqué, voilà, la routine, glisser sa clé. Tu vois, la clé, c'est quand même un symbole important. Tu glisses la clé ça fait unique dans ton univers intime, personnel. Tu vas pas, la folie va pas te prendre d'aller glisser ta porte chez, ta clé chez le voisin, je sais pas trop quoi. Et donc, l'ordre de la vie réelle, dans la confrontation de la réalité de l'univers, on va dire, trivial et dur du quotidien, c'est une forme d'illusion, parce que c'est fonction de comment tu vas être dans ta perception, dans ton prisme, dans ton rapport au, entre guillemets, au tout venant. Quand t'es sur la voie publique, quand t'es dans la société, dans la cité, et après de l'autre côté, l'univers, quand tu le retournes du rêve, pour moi, je sais que je suis consciencieux, j'aime bien avoir mon cahier, prendre les notes et revenir au court long terme. Déjà l'impact de premier abord du rêve, comment il m'a impacté. Parce que bon, j'ai eu un événement chargé et grave quand même. C'était pour ma mère. C'était au mois de juin. J'ai eu le décès de ma mère. Mais au préalable, le 20, quand elle a eu la pose de son pacemaker, j'avais eu un rêve assez prégnant, où est-ce que je voyais défiler trois linceuls. Tu vois, de chez ma mère dans son appartement, je voyais trois.
Oui, ben oui, mais ça, c'est une prédisposition, puisque elle était malade déjà, ta mère.
Oui, oui, bien sûr.
Voilà. Donc, c'est. Comment dire, chaque individu de chaque culture différente, hein, chacun avec ses cultures, véhicule avec lui des images. Donc, toi, en tant que musulmane, tu vas voir linceul. D'autres vont voir le signe de croix ou alors un cercueil, tu vois. Donc, chacun, selon sa culture. Oui, oui, vas-y. Ouais.
Ne me coupe pas.
Ah, je te coupe pas.
En 2021, j'ai ressorti un agenda où est-ce que j'avais exactement l'intitulé et la vision des conditions, enfin, de l'après-coup du deuil collectif familial. Et ça m'avait frappée. Avec, du côté des frères, etc. Mais ça, c'était encore plus précoce, avec les fameux 40 jours où est-ce qu'on a les signes, où est-ce que, la mort intègre le 9 et que ça se fait progressivement. Il y a des signes et...
Ça, c'est des croyances, encore une fois. Ce n'est pas une, une réalité, ce sont des croyances.
Si tu veux, d'accord.
Oui, c'est des croyances, parce que chaque culture pense différemment et a ses propres codes, et voilà.
Hein? Et donc, pour en revenir au rêve, effectivement, le fait qu'elle fasse la pose de son pacemaker avant qu'elle parce qu'elle a été intégrée aux urgences, tout et tout. Et donc, au préalable, j'avais déjà fait ce rêve. Mais moi, quand dans cette processualisation, c'est directement le canal ouvert sur l'inconscient. Et comment je suis en train de, jusqu'à maintenant, vivre le deuil. C'est-à-dire qu'après, on se retourne. C'est-à-dire que c'est quand même les deux morts les plus, on va dire, comme le couple originel de vie de tout être humain, c'est ton père et ta mère. Et après, quand ils partent, il y a un effondrement. Il y a un effondrement de ces personnes sacrées dans toute vie humaine. Là, je te parle, voilà. Et donc, comme je te disais, dans le rêve, ces trois linceuls, ils ont été aussi le processus d'une déflagration intérieure. Parce que les deuils, après, chacun, comment il chemine dans le processus de deuil. Et ça s'est fait pas sans mal. Enfin, je continue à le vivre, mais bon, Pardon ?
Oui, je te disais bien sûr.
Voilà. Et comme je te disais, le rêve, plus je le visualise, parce que je les impacte aussi, même si tu les rédiges, etc., que tu es clair dans la conscience du rêve, et que tu as bien rédigé, que tu as mis à plat sur le papier, quand j'aime bien l'écriture, de l'autre côté, après, c'est son cheminement dans ta vie, comme tu disais, du quotidien, dans ta vie incarnée, et dans la vie de l'illusion, parce que chaque jour que Dieu nous ouvre comme un cadeau, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous réserve. C'est toujours une nouvelle naissance, une nouvelle journée.
Oui.
Et après, c'est comment il y a des choses qui se déclenchent, parce que le jour où est-ce que on a appris le décès de ma mère, j'avais eu aussi le rêve de des femmes impactantes de sa vie. Et donc quand je sors et que je rencontre l'une des voisines, que bon, après, il faut le dire, t'as vu, il faut dire rapidement, enfin, chez nous, dès qu'on, enfin, en islam, normalement, dès qu'une personne est décédée, il faut l'enterrer le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, enfin, etc. Mais, et donc, quand je rencontre la personne, eh ben, elle me dit directement, effectivement, je l'ai vue, etc. Et c'était des personnes importantes de, enfin, il y a des chaînes, où est-ce que je pense qu'en surplomb, le reste, c'est encore plus, comme tu dis, prégnant quand tu y prêtes attention. Hein. Parce que c'est en gros, c'est des clés et c'est des révélations sur des choses qui vont se déployer et qui vont se révéler quand tu vas être éveillé.
Mmh.
Et après, bon, je ne vais pas aller dans
non,
pas
non, mais c'est...
la porte. Oui.
Non, c'est intéressant. Mais oui, parce que. Bon, toi, comme beaucoup, bon, c'est vrai qu'à l'approche d'événements un peu particuliers, surtout dans des moments difficiles, bien quand on a des personnes autour de nous qui sont âgées.
Non, c'est pas difficile. Comme tu le disais, la mort, c'est pas un problème. J'ai même.
Oui, non, mais mais c'est difficile. Moi, je perds ma mère, ma vie, elle est finie. Hein. C'est pour ça que je me mets à ta place et je te comprends. Mon Dieu, comment je vous comprends. Celles qui ont perdu leur maman, mais je suis tout cœur avec vous. Vous pouvez pas imaginer à quel point que vraiment que Rabbi vous donne la force de supporter, hein, vraiment, et la patience, parce que ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai que les rêves, eh bien, dans ces moments-là, quand on a des personnes âgées autour de nous, des parents, etc., qui avancent dans l'âge, c'est la vie, hein, eh bien, c'est pas qu'on se prépare, mais inconsciemment, nous on veut pas se préparer parce qu'on peut pas, c'est pas possible. Se préparer, ça voudrait dire accepter, et on n'accepte pas, donc on veut pas. Ça c'est le conscient qui parle, mais l'inconscient, on échappe pas à son inconscient, et celui-là, voilà, il nous échappe par contre. Donc ce qui fait que, eh bien, il nous prépare. Et comment il nous prépare? Parce qu'inconsciemment, eh bien, on se blinde, on essaye un peu de se protéger. À travers, encore une fois, oui, nos rêves, à travers beaucoup de choses, pour pouvoir supporter l'insupportable, j'ai envie de dire, l'insupportable. Voilà, parce que perdre une maman, c'est ce qui est le plus insupportable, comme perdre un enfant, ça, c'est pareil, c'est horrible. Voilà. Mais c'est vrai que dans les rêves traduisent, hein, et des fois, même en amont. Parce que c'est comme si on se préparait quelque part, hein, tu vois, comme tu dis.
C'est une révélation qui vont te dévoiler. C'est pour ça que quand je te dis que je vois les trois linceuls, et ben, au bout du compte, après, moi, c'est ma finitude et mon rapport à ma propre mort.
Oui.
Je suis prête, moi, je suis prête, présente et en accord pour mourir. Moi, j'estime que je vis pleinement ma vie en qui je suis et à tout ce que j'ai à travailler. En moi-même, avec les autres, et qu'est-ce que j'ai avancé dans ma vie pour me construire. Et moi, je te le dis, j'ai aimé ma mère, elle a été une personne. Après, bon, voilà, tu sais, il y a du bon et du mauvais dans toute vie humaine, et elle a été, bon, elle a eu des côtés, une face cachée, brutale, rude, etc. Par contre, moi, j'ai pas de regrets, parce que j'ai été vraiment une enfant, j'ai pas envie de m'en voir, mais j'étais bonne avec ma mère, j'étais une enfant. Remarquable. Quand il a fallu couper les choses toxiques et pas bonnes, je l'ai fait de son vivant.
Mmh.
Et l'amour, eh ben, moi, quand j'ai fait le lavage rituel, c'est un acte d'amour, c'est un acte de naturel. Je suis la chair de sa sœur, je suis sa fille, je l'ai fait. Et tu sais, ça m'a rapporté toujours à ce rêve, les trois, comment on appelle ça, les trois linceuls qui descendaient. Mais ça, je ne savais pas, hein, parce que moi, je ne savais pas que...
C'est quoi ça, les trois linceuls qui descendent? Je n'ai pas compris ça, par contre.
Dans le rêve, je vois l'appartement, il y a beaucoup de luminosité.
Oui, mais tu me parles de trois linceuls qui descendent. Pourquoi trois linceuls? Je n'ai pas
parce
compris.
Parce qu'il y a le grand balcon, il est très, très spacieux, très clair, l'appartement de ma mère. Et c'est son appartement que je vois, ces trois linceuls, le jour où est-ce qu'elle se fait mettre son pacemaker.
Ah oui, d'accord.
Et au bout du compte, maintenant, quand j'avance dans le deuil, c'est un effondrement intérieur par rapport à mon processus de deuil.
Oui.
Comment je me retourne dans ma vie, tu sais, c'est une mort, même en humain, il y a une déflagration, une destruction, c'est une douleur atroce, le deuil.
Bien sûr que c'est...
Même si les forces de l'amour, même si les forces de l'amour sont éternelles, parce que la mort est plus forte que la mort,
oui.
Et qu'elle est vivante et que j'aime mon père et ma mère, tu sais, c'est le moment où est-ce qu'on se sent orphelin.
Mm-hmm. Ben oui. Ben oui.
Orphelin,
oui,
à la face des 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur cette terre. Mm-hmm. On a des liens de sororité, de fraternité, d'humanité. Mm-hmm. On peut déployer toutes les forces d'amour. Mais après, quand on a perdu ses parents, eh ben, y a ça. Et puis moi, j'ai pas de regrets à proprement parler, parce que j'ai vraiment, et de leur vivant, je les aimais profondément. Ils sont morts, je les aime toujours autant. Mmh. Voilà.
Ah oui. Ah oui,
et le rêve, et comme je te disais, là pour le rêve, il est très impactant. Quand j'en parle avec toi, c'est bien parce que ça libère. Et puis ça me concrétise bien l'aspect pratique du rêve, où est-ce que il est révélateur, il te dévoile des signes qui vont, si tu sais bien les prendre à bras le corps, et ben qui vont t'aider à avancer, à construire dans le réel, la réalité qui est une illusion. Parce que des fois, le réel et le quotidien, on est dépassé par la vie. La vie, elle est tellement, elle déborde tellement de partout, elle est tellement bizarre et étrange que finalement, le refuge du rêve, il est encore plus sécurisant et plus protecteur.
C'est pas
fou. Quand tu sais bien vivre avec, quand tu sais bien cheminer avec.
Mmh, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Ben oui, c'est un refuge.
Voilà. Mais après, bon, je sais que bon, j'ai beaucoup partagé aussi avec. Ben, tu as des spécialistes de l'honneurisme, tu as des Freudiens qui vont te
rapporter. Ah oui, alors ça, ouais, ouais.
Je vont faire passer le. Oui, après, c'est intéressant.
Voilà, c'est ça. C'est bien de voir un petit peu. C'est bien, c'est intéressant, mais. T'as plusieurs avis, hein. Et ouais. Puis on parle aussi de phénomènes psychiques, ça c'est plus scientifique, tu vois. Alors donc voilà. Alors chacun y va avec sa vision des choses, hein. Voilà. Moi la mienne, je l'ai exposée tout à l'heure, et elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais bon, maintenant c'est la mienne et je ne prétends pas posséder la vérité, parce que je ne suis pas partie ailleurs et je ne suis pas revenue. Le jour où je partirai, je me réveillerai de cette vie, je me réveillerai ailleurs. Je vous enverrai peut-être un message, mais pour l'instant, il n'y a personne qui a pu le faire, en tout cas.
Et tu sais, pour te dire, l'un des derniers rêves que j'ai fait de maman, c'était un rêve très, très doux et très empreint d'amour que même de son vivant, on n'a pas pu partager.
Ah, ça c'est beau.
Ouais.
Ouais. Ça c'est beau. C'est apaisant. Hein?
Sachant que je te cache pas que les 72 heures, où est-ce que bon, il y a la secousse, où est-ce qu'il y a une présence, une invisibilité du défunt, que je ressens moi. Je l'ai parfaitement ressenti hier, Mahmoud, pour mon père, comme je l'ai très bien ressenti de ma mère. Pour mon père, ça s'est bien passé, alors que pour ma mère, cette suspension d'âme, etc., c'était plus dur.
Ah oui.
Ouais.
C'était plus compliqué.
Ouais.
Ouais. Il y a toujours des raisons.
Et voilà, quand je rêve de papa ou quand je rêve de maman, c'est toujours... je me dis, voilà, c'est quand même un contact assez... c'est très, très, très prégnant.
Oui, c'est important. Hein. Mm-hmm. C'est comme si on gardait un lien.
Oui, oui, un lien avec l'au-delà. Ouais.
Voilà.
On peut carrément dire le truc.
C'est ça. Et c'est, très...
c'est comme ça que je le ressens. Après,
oui,
comme
oui.
Tu dirais,
c'est
pas de la croyance, c'est un ressenti.
Non, c'est un ressenti.
Une perception.
Bah oui. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi de se raccrocher à quelque chose, hein, parce qu'on n'a pas envie de les perdre complètement. Moi, j'ai tellement pas envie de perdre tout ce que j'aime et que j'ai aimé que je crois fortement qu'il y a une autre vie et qu'on va se rejoindre. Ça, j'aimerais tellement. Et j'aimerais tellement pas que, y a plus rien. Tu vois, y a plus rien.
Moi, personnellement,
oui, vas-y.
Je peux couper avec
non, vas-y. Du miel. Tu es dans la certitude, donc.
Moi, je suis sur le plan du passage et de l'au-delà. Mm. Et bien sûr, pour moi, c'est une vérité dure et plus forte que l'ordre matériel dans lequel je vis. Avec Daniel Darthel-Herriva, le pendant, il est bascule. C'est du réel et c'est du ferme pour moi.
Et chacun, selon ses croyances, selon. C'est la mentalité dans quoi il a baigné oui, puis il y a aussi la religion qui rentre là-dedans, hein. Il y a plusieurs religions, donc il y a plusieurs aussi cultures, il y a plusieurs tout ça, les traditions, tout ce qui va avec. Donc il y a plusieurs façons de voir l'au-delà.
Et voilà. Vanessa,
C'est
Pardon?
Ça, oui.
Quand tu rapportes de manière, on va dire, je ne sais pas si on va dire holistique, ou
oui.
si
on
de manière, comment dire, totalisatrice, histoire de l'humanité, on sait, mais même scientifiquement, maintenant, c'est révélé, on sait qu'il se passe quelque chose après.
Enfin, scientifiquement, on ne va pas aller jusque-là, parce que...
Il y en a qui font les recherches, et qui vont pousser aussi cet angle
de
l'aspect surnaturel, de l'aspect d'invisibilité de ce qui se passe après la mort.
Oui, mais enfin, bon, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des vérités, hein, et surtout d'avoir des preuves de ce qui se passe après. C'est juste impossible. On est très, 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 très limité. T'imagines que déjà, le cerveau, on en connaît peut-être 10%, j'en sais rien, tu vois. Avec les 10 milliards de neurones que nous possédons, il est très complexe. Hein. Je regarde souvent des choses sur le cerveau. Avec tous ces câbles dont j'ai parlé cette semaine, 10 milliards de neurones, avec des milliards de câbles qu'on appelle des axones qui relient chaque neurone, etc. Déjà, ça, les scientifiques, ils sont butés à ça. Alors, t'imagines, au-delà de la vie, la mort, ils vont te dire, oui, il se passe ça après la mort. Non, il n'y a personne, aucun scientifique qui peut avoir une réponse. Je te reprends juste après, Safia, ne pars pas. Ah, on a ma petite Sabrina de Grenoble juste après. Les autres, on vous attend, c'est intéressant ce qu'on se dit. Allez, 0153483000, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 0153483000 avec Safia et on parle de choses, d'un sujet hyper intéressant. Et Safia a des choses intéressantes à nous dire. Safia, je te laisse continuer. Donc, pour toi, scientifiquement, ça pourrait être prouvé ou ça l'a été prouvé. Alors, je t'écoute. Non, mais vas-y, je t'écoute. Y a pas de souci.
Non, mais parce que tu vas être buté par rapport au fait que dans notre culture ultra-rationaliste, scientifique...
Dans toutes les cultures, toutes, confondues.
Allô ?
Oui, toutes les cultures, je parle. Hein, parce que chaque culture, elle donne sa version.
Bravo.
Toutes. La nôtre, hein. Non, il n'y a pas de nôtre. Je parle des cultures humaines, en général.
Ouais,
chez les Indiens, les Amérindiens, les Juifs, les Chrétiens, tout le monde a sa version, voilà, tout simplement.
Mais justement, quand on lève le voile et qu'on veut percer et aller vers la vérité, je pense que tout le monde est en quête de vérité, hein. C'est intéressant d'être en quête de vérité, moi c'est mon cas. Mais moi, je vais aussi, ça me pose aucun problème de savoir que sur le plan thoramique, sur le plan du passage à la mort, il y a beaucoup de points de convergence entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et les 313 prophètes qui nous sont révélés, c'est la continuité du monothéisme, point barre. Et l'au-delà est révélé. Et c'est vrai que moi qui suis très... je me pose, hein, moi je travaille énormément pour comprendre et être très en clarté par rapport au message coranique. Parce que je suis croyante et musulmane, et il nous est demandé de percer et de dévoiler aussi la révélation à travers la Torah, à travers toute sa tradition, quand il y a le Talmud.
Tu te bases sur, disons, les récits religieux. On est d'accord. Religieux, oui, du monothéisme. D'accord.
Voilà, mais après,
je t'entends, oui, très bien.
Alors, je vais encore élargir la focale en te disant que moi, j'ai pas de problème aussi, que je m'intéresse au bouddhisme et que je suis très, très, très. Parce que c'est un paradis, tout ce qui est spiritualité, tu vas te rattraper au shintoïsme.
Mais est-ce qu'on peut donner une version sans pour autant prendre pour référence et se baser sur une philosophie, quelle qu'elle soit, religieuse, monothéiste ou pas, ou bouddhiste, ou tout ce que tu veux. Si on peut aussi avoir un avis autre, avec, disons, un champ plus élargi réflexion et dans la recherche personnelle, sans se baser. Parce que moi, quand je te parlais de peut-être qu'on est dans un rêve, etc., je me suis basée, mais sur rien. Parce que moi, je me base pas du tout sur les religions pour pouvoir me faire une opinion. C'est plus de l'observation. L'observation, une réflexion propre, personnelle, et j'avance pas seule, bien sûr, puisque on prend toujours des références, hein, je veux dire, Einstein, je suis sûr que lui-même avait des références, hein, et des référents, on va dire. Donc, voilà, puiser un peu par-ci, par-là, ce que pensent les gens, et puis l'observation aussi à travers aussi des choses qui sont fascinantes pour beaucoup et mystérieuses, telles que les EMI et NDE, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Ça aussi, c'est important, oui. C'est intéressant.
Oui, après, moi je suis parfaitement raccord avec toi quand je parle à tout un chacun. Après, quand on est sur le poste d'observation et comme toi tu l'as, comme t'as proposé, quand tu nous as présenté le sujet, tu l'as présenté par rapport à ton prisme, par rapport à ton approche qui est particulier.
Mais c'est pas une vérité, il hein. Y a pas de vérité. Moi pour moi il y a pas de vérité, hein. Qu'elle soit d'un dogme ou d'un autre ou que il y a des suppositions, on suppose, voilà, et chacun expose les siennes, mais la vérité suprême, absolue, je pense pas qu'elle existe. Hein. Peut-être que certains la frôlent hein, avec leur réflexion, peut-être. Et peut-être ils sont, c'est pas ceux qui peut-être ont fait de grandes études qui la frôlent aussi. Hein. Ça peut être tout et n'importe qui. Les personnes, peut-être un nomade, un Touareg qui vit en plein milieu du désert et qui la nuit connaît les étoiles, hein, l'emplacement des étoiles, etc. Connaît les lieux, les yeux fermés, alors que n'importe quel pèlerin va prendre le avec sa boussole, avec son GPS, avec tout ce que tu veux. Va faire une expédition dans le désert, il va au bout de quelques jours, il va mourir de soif et il va se perdre. Et alors que le Touareg, tu peux au milieu du désert, il va toujours retrouver son chemin. Tu vois, peut-être que lui aussi, avec sa sagesse, avec sa réflexion, parce que c'est des personnes qui Je parle pas seulement des Touaregs, hein. Je parle des gens qui sont les Touaregs. Pourquoi je prends les Touaregs en exemple? Parce que souvent ils sont dans la solitude et tellement proches de la nature. Le ciel et le sable et la terre, tu vois, la terre, le sable, eh bien, ne font qu'un à un moment donné pour eux. Donc ils sont en parfaite harmonie comme les animaux, en parfaite harmonie avec la nature, comme les Esquimaux en parfaite harmonie avec la nature. Le silence est très important parce que le silence aide à la réflexion et à la réflexion, à la pensée. Et voilà, tous ceux qui vivent, les aborigènes, etc., tous ceux qui vivent très proches de la nature, loin du bruit de la civilisation, voilà, et ceux qui font des expéditions en mer aussi. Comme ça,
explorateurs.
Sur les mers, mais t'imagines, c'est pareil, ils sont en osmose avec la nature. Les moines aussi, les moines, que ce soit au Tibet ou ailleurs, les moines qui sont dans le silence pendant des mois et qui sont dans une exploration, mais plutôt intérieure, tu vois, parce que on regarde ce qu'il y a autour de nous, mais quel dommage qu'on n'explore pas ce qui est à l'intérieur de nous, parce que peut-être que les réponses sont à l'intérieur de nous.
Bravo. Moi, et là, je te rejoins à 1000%. Dans le mystère de l'humain, c'est toujours des figures qui sont en retrait. Et comme tu disais, hein, la figure la plus frappante, c'est l'ermite, tu vois. Il est en retrait. Ou les yogistes aussi, tu sais, dans toutes les cultures. C'est les personnes qui vont se retirer de l'organisation, de la société humaine, qui vont avoir une puissance et une vie intérieure à la fois lumineuse, avec une lumière, mais d'une intensité, et tu le ressens, tu vois, les énergies de lumière, waouh, moi c'est frappant, ça m'écrise, enfin, ça m'hypnotise, ça m'écrise. Et comme tu les as évoqués, moi je suis, voilà, comme tu dis aussi, les gens, les Touaregs qui sont dans l'alignement holistique de l'infiniment petit, du cosmos absolu, oui, c'est des gens, alors que nous, on est dans nos conditions dans les sociétés ultra sophistiquées, ultra agressives et violentes, on est complètement en perdition, on est dans la déshérence.
Ah mais complètement. Là tu mets sur encore un autre sujet, tu vois, une porte. Non mais tu as raison, parce qu'une porte en ouvre une autre. Et là
non,
tu as mis le doigt sur
extrêmes. Tu prends le rapport d'un extrême à extrême. La conditionnalité de ce qu'on vit nous dans nos conditions qui sont parties dans des voies dans ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle, on est dans une logique de fuite en avant, ou est-ce qu'on est dans une chute, collectivement parlant, hein, c'est ma vision, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est mon ressenti, malheureusement, les gens, on est complètement écrasé, acculé à devoir suivre un mouvement que personne ne veut suivre. c'est paradoxal, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Mais après, dans les sociétés, comme tu disais, primitives, etc., c'est les sociétés qui sont les plus ancrées à la condition de la vie humaine, oui, à la vie du respect de notre nature incarnée, et c'est les personnes qui sont les plus riches et les personnes qui sont les plus...
Et ils vivent en pleine harmonie avec les codes de la nature, parce que la nature elle a ses règles. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il se passe dans le monde les séismes et tout ce qui se passe, parce que nous on connaît rien de la Terre, on n'en connaît rien du tout de cette planète. Parce que si on savait, si on connaissait quelques secrets de la planète, si on avait pris le temps d'étudier la planète, eh bien aujourd'hui, si on la respecte, parce que quand on étudie quelqu'un, une personne, moi pour moi c'est vivant, la planète, elle est vivante, elle bouge.
Oui,
eh bien, si on prenait le temps, si on avait pris le temps de l'étudier et de la respecter, il n'y aurait pas de séisme, il y aurait des séismes, bien sûr, parce qu'elle bouge. Bien sûr, c'est les plaques, on sait très bien. Mais, on éviterait peut-être, on ferait de sorte à éviter, de toutes ces catastrophes. Donc, on ferait de sorte à vivre comme vivaient nos prédécesseurs, bien avant, bien sûr, dans l'Antiquité, allez, soyons fous, eh bien, ceux-là qui vivaient dans la nature, qui vivaient peut-être dans les grottes, on voit encore avec les vestiges, etc., qui creusaient dans les grottes, qui faisaient des maisons dans les grottes, et qui vivaient, mais vraiment, si tu veux, ils respectaient les codes de la nature. Je ne construis pas des tours avec du métal, machin, etc., fabriqué, ta. J'utilise les outils de la nature. La nature, il y a des grottes, il y a ceci, il y a cela. Eh ben, je vais utiliser ces outils. Voilà, je vais creuser dans les grottes et je vais me faire des habitations. Je vais faire quoi? Je vais vivre, bah, dans les bois, oui, dans les forêts, dans les bois, etc. Mais je vais faire des cabanes en bois ou des choses comme ça, bien sûr, pour, on va me dire oui, pour se réchauffer. Avant, les gens, ils se réchauffaient aussi, hein, feu de bois, etc. Il y a toujours moyen de moyenner, mais toujours en harmonie avec la nature. Pas faire des grands ensembles comme on connaît, des choses qui sont contre nature, parce que le béton, c'est pas la nature. Quand tu vois, par exemple, ces grandes tours, je parle pas de New York, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à New York, il y en a partout maintenant, des grandes tours. Des tours de je ne sais combien d'étages, 50 étages, voire plus. Est-ce que c'est normal? Il y a quelque chose qui, il y a un truc qui tourne pas rond. Non, mais c'est vrai, l'être humain, il est pas fait pour être perché, comme ça. Et je veux dire, bien sûr que la Terre, elle vit. Elle vibre, elle a son cœur, la Terre. Et quand elle tremble, quand elle vit, eh bien, elle bouge, c'est normal. Voilà, un chien quand il se secoue, eh ben toutes les puces elles tombent. Eh ben la Terre elle secoue ses puces, eh ben c'est nous les puces et on tombe et on meurt. Voilà, parce qu'on respecte pas les codes. Ben oui.
Oui, mais ça parfois, je t'aime tellement fort que je suis complètement raccord et en vibration avec tout ce que tu dis et qui est parfaitement juste. Oui. De comment tu l'exprimes. Effectivement, moi, tu sais que je suis dans le 93, pur béton. Et après, de l'autre côté, quand je me fais le lien avec le super quartier des affaires de la Défense, je suis glacée. Oui. Tu sais, là-dedans, c'est une machine de guerre, de financiarisation. Et tu crois que la Terre, on ne l'impacte pas avec tout l'aspect prédateur. Les énergies, il y a ce qu'on appelle des synergies, des interactions. Et notre négativité, elle imprègne et elle détruit. On est dans une crise climatique. On est autosuicidaire.
Mais complètement.
Cette fuite en avant.
Complètement, parce que la Terre, tu as raison, la Terre, quand elle s'est formée, quand il y a eu la création, les humains, etc., les animaux, tout ça, eh bien, au départ de la vie, chacun voit, il y en a qui croient d'une manière, d'une autre, nous, en tant que croyantes, on sait que c'est Dieu qui est derrière ça, voilà, cette force, eh bien, quand, au départ de la vie, ce monde a été créé, bah, elle a été créée sans béton, avec les codes de la nature.
Oui, et
voilà, avec les codes. Mais l'être humain, pourquoi il nous a été donné par Dieu, par la nature, par l'univers, 10 milliards de neurones, pourquoi faire? Pourquoi? Et relier tous avec des cas, pourquoi? C'est pour justement savoir réfléchir et pouvoir survivre, hein, et puis trouver les moyens de survie sur la planète. Et ben nous, au lieu d'aller dans le sens de la nature, c'est-à-dire le sens des vagues, pour ne pas nous noyer et essayer de nous en sortir comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a été à contresens et on a fait n'importe quoi de cette terre. On est en train de la bousiller, mais un point.
Alors là, Non, mais ça, on le ressent dans la fibre de vibratoire de nos cœurs, de nos émotions. On sait qu'on est la logique, cette fuite en avant de ça, c'est après, c'est sur le long terme, hein, c'est à échelle d'extensibilité, c'est la révolution industrielle, c'est comment dire, l'homme il est dans la prédation, on a réussi, c'est un échec, c'est dramatique, c'est pathétique, ouais. Mais eux sont dans cette logique de performance. Ils sont, quand tu regardes et que tu le regardes comme on l'observe tous, on n'a pas besoin d'être un polytechnicien pour comprendre que les logiques de perversité, moi quand j'écoute des politiques, c'est des gens qui sont dans la compétition, c'est des prédateurs, c'est des gens qui, et c'est des gens comme ça, c'est ce qui me tue moi, qui gouvernent et qui dirigent le monde. Donc automatiquement, ils attirent dans leur logique, c'est des minorités ultra actives qui emmènent le monde à leur perte. Regarde, bon, ouais. C'est tout bête. Là, j'ai envie de faire une parenthèse, je la referme rapidement. Mm-hmm. On voit que on mène les gens à une performance, à de la productivité. On leur dit il faut travailler jusqu'au cercueil. Eh ben, les gens ils sont épuisés. On sort, on les a sédatés avec une période de pandémie. Il y a la guerre. Oui. Il y a
Safia, on a une petite pause, ma chérie. Une petite pause, Sabrina, tu ne pars pas et les autres, allez, reste de la place. 01 53 48 3000, venez donner votre point de vue. C'est une discussion, je pense, qui mérite d'être abordée, hein, ce thème. Donc venez donner votre avis au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000 et on termine avec Safia. Très intéressante, très intéressant échange en tout cas, Safia. Oui, toujours là, oui. Safia. Oui.
Ouais. Si on fait la bascule entre le cauchemar,
oui,
du monde de l'illusion et du quotidien que nous propose le monde, effectivement, notre monde intérieur est par notre rêve. Comme ça, je clôturais comme ça la thématique en me disant que c'est une espèce de bougie à laquelle il faut bien regarder la révélation du message à travers la flamme que nous offre la lumière de nos rêves. Voilà.
Oh bah écoute, c'est tellement bien dit. J'ai rien ajouté. Merci, ma Safia. Merci, je t'adore.
C'est l'inspiration.
Ah bah écoute, t'es bien inspirée. Merci infiniment. Je t'embrasse fort et reviens vite. À bientôt, ma Safia. Adorable, Safia. Toujours des choses intéressantes. Vraiment. Ah oui, puis beaucoup de profondeur et ça, c'est pas... Franchement, c'est intéressant. 01 53 48 3000 et les autres, allez, on se réveille, c'est ramollo, hein. Je commence à m'énerver là, hein. On a Sabrina qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir ma Sabrina, la fidèle.
Bonsoir ma Rose.
Bonsoir la fidèle.
Du coup, je t'appelle parce que vendredi, tu as lancé un appel en disant d'appeler lundi par rapport à...
Oui.
J'ai vu que, bon, je remercie déjà Fatima Habibti, c'est qui s'appelle Habibti.
Oh, dis donc, c'est ton avocat, hein, t'as vu?
Oui, parce qu'elle m'a bien défendu.
T'as vu? Incroyable.
Ah, mais elle est sympathique, cette dame.
Elle est gentille.
Elle
est,
voilà.
Elle est
alors, adorable. Comme j'ai vu qu'elle prenait ma défense, et puis après, tu l'as coupé court, du coup, elle n'a pas pu continuer, la pauvre.
Ah oui.
Mais bon, je la remercie, mais c'est pas grave, c'est que des débats. Tu sais, Vanessa, je vais dire un truc, les gens qui m'ont critiqué, franchement, ça me touche pas parce que.
C'est même pas de la critique. Moi,
pour moi, c'est pas des gens qui savent débattre. Ils prennent tout ça dans la colère en disant que j'étais haineuse et tout, mais non, j'ai dit ce que je pensais. Mmh. Et puis, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais
voilà, on peut ne pas être d'accord.
Colère, voilà. Oui.
Alors, moi,
voilà, ça m'a franchement ceux qui m'ont critiqué, ça me.
C'est pas de critique. Non, c'était de. Voilà, ouais. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, mais c'est pas méchant,
oui,
c'est une bonne
bon,
guerre.
La façon comme ils l'ont dit, comme ils ont parlé, ils ont une façon qui est pas.
Comment non, toi, tu t'arrêtes pas ces choses-là, telles que je te connais.
Oui, moi je. Oh là là, ça me touche pas. Oh là, ça me
alors,
touche
sinon,
pas.
Concernant notre.
Voilà. Et puis voilà.
Voilà. Et
oui,
voilà.
Alors,
notre sujet,
justement,
ma chérie.
Par rapport au rêve, c'est un sujet intéressant.
Bah oui.
Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, Safia, qui parlait avant, a bien parlé, a très bien expliqué mot par mot, lettre par lettre, les choses. Et je l'écoutais, franchement, j'étais. Tu vois, les gens comme ça qui parlent, moi, pour moi, c'est des gens intéressants. Voilà, elle a dit ce qu'elle pensait, elle l'a débattu, elle a. Voilà, je l'ai écouté, j'avais encore envie de l'écouter, tu vois, pour te dire. Oui.
Et toi, alors, ton. Voilà, ton
alors, moi, les rêves, je vais t'expliquer, Vanessa, ce qui m'est arrivé.
Oui.
Alors, tu vas me dire, hein, parce que moi, je suis un peu. Comment t'expliquer? L'après. Moi, je sais qu'il y a quelque chose après la mort, mais je le vois pas comme on l'explique maintenant, l'enfer et le paradis. Moi, je le vois par. Comment t'expliquer? Un peu par l'esprit de la nature, comme les Indiens croyaient. Moi, je pense que c'est plutôt la nature qui nous renvoie des choses. L'esprit de, du vent, du soleil, tout ça, l'air, tout ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans.
Les éléments.
Alors, je vais t'expliquer. Ouais, mmh. C'est un peu comme penser les Indiens, tu vois.
Oui.
Alors, je vais t'expliquer, Vanessa, ce qui m'est arrivé à l'âge de 10 ans.
Mmh.
J'ai été malade suite à une appendicite, parce que je faisais une crise d'appendicite. Bon, j'ai fait une forte fièvre, une très forte fièvre.
Mmh.
Et pendant cette maladie, pendant cette fièvre, il m'est apparu quelque chose. J'étais dans ma chambre et d'un coup, mais c'était pas une illusion, c'est quelque chose de vrai que j'ai vu. Hein.
Oui.
Et ma mère pensait, quand j'ai appelé ma mère, elle pensait que c'était dû à la fièvre. Elle voulait pas, elle me dit, mais tais-toi, c'est la fièvre qui te fait ça. Bon, regarde ce qui s'est passé. J'étais allongée dans mon lit. Et d'un coup, j'avais les yeux ouverts parce que j'arrivais pas à dormir, comme j'étais mal, tu sais, qu'on a appendicite, mal au ventre et tout ça.
Oui, oui, oui.
Et sur le plafond de ma chambre, j'ai vu comme une, comment t'expliquer?
Oui.
C'était la, une forme d'être humain, mais on voyait la tête avec comment t'expliquer? Comme une robe, mais tout blanc, qui s'étirait comme un élastique. Tu vois, qui s'étirait au plafond, mais comme un élastique, qui tournait wow. autour du plafond.
Mmh.
Ah oui, oui, oui. Et depuis que j'ai vu cette chose-là, Vanessa, j'ai des rêves prémonitoires.
Ah oui?
Et mes rêves sont arrivés. À chaque fois que je... Ben, si je rêve, par exemple, d'un mariage, d'une mort ou d'une naissance, je ne me trompe jamais. À chaque fois que je fais des rêves sur ça, et depuis que j'ai vu ça, alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Moi, pour moi, peut-être que c'est un ange, je ne sais pas.
Mmh.
Et il tournait autour. Et puis, alors j'appelais ma mère parce que moi, sur le coup, j'ai eu peur. Je disais à ma mère, il y a quelqu'un sur le plafond, et ma mère pensait que c'était la fièvre, parce que c'était pendant ma période de crise d'appendicite. Et ben, depuis ce jour, je fais. Alors, j'ai vu la mort de mon père, j'ai vu la mort de, ouais, tout ce qui s'est passé dans sa vie, tous les morts et naissances, j'ai toujours vu des scènes dans mes rêves et qui se sont passées après, dans la vraie vie. Voilà.
Oui.
Même les naissances. Hein. Alors, je vois le, comment t'expliquer? Je vois la, je vais t'expliquer, mon père, juste avant qu'il meure, j'avais vu l'action de la porte de la mort, le couloir, comment je suis passée, tout ça, je l'ai vu en vrai. Une semaine avant qu'il décède. Et quand je suis allée à la mort, j'ai revu la même scène. Et je savais que ça allait se passer, et j'ai vu la même scène, la couleur de la porte, le couloir et tout ça. Les naissances, c'est pareil, le couloir de la maternité, le bébé qu'on tient à la main, quoi. Tout ça, je le vois. Et après, ça se passe. Depuis que j'ai vu ça, Vanessa, qu'est-ce que tu me dis?
Ben écoute, il y a eu un déclic. Moi, je pense qu'il y a eu un déclic. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Parce que le cerveau, comme je disais tout à l'heure, on n'en connaît pas grand-chose. Hein. Même les plus grands neurochirurgiens, tout ce que tu veux, tous les scientifiques, ouais. pour eux, ils se butent à vraiment... ça les agace parce qu'ils n'arrivent pas à avancer encore concernant le cerveau. Ça reste toujours l'organe le plus mystérieux chez l'être humain. Ils arrivent à tout expliquer, pourquoi le cœur y bat, le foie, à quoi il sert, le machin, etc. et tout. Par contre, le cerveau, il n'y a pas longtemps qu'on a découvert toutes ces neurones, etc. etc., etc. Donc, ce qui fait que, eh bien, oui, il y a des choses qui se passent à travers le cerveau, dans certains endroits du cerveau, et il y a certaines neurones, peut-être, qui ont des fonctions qu'on ne connaît pas, et qui explique ce que tu viens de dire, là, à l'instant. C'est ça?
Mais comment? Parce que... Oui, voilà, c'est ça. Mais comment? C'est pour ça. Je rêve beaucoup, Vanessa. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Mais comment expliquer que depuis que j'ai vu cette chose au plafond, alors que je ne rêvais pas avant, les rêves sont venus? C'est quand même. Je pense qu'il y a eu quelque chose, une connexion. J'ai fait quelque chose avec une connexion. C'est pas un hasard.
Ben oui, il s'est passé quelque chose à ce moment-là.
Oui.
Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose.
Alors, tu sais que quand j'ai vu cette chose-là, j'ai fait une appendicite infectieuse, hein, qui était très dangereuse pour moi. Et j'ai été opérée le lendemain, parce que j'ai fait ma crise de la nuit. Le lendemain, mon père m'a amenée à la clinique et j'ai été opérée. Et j'ai été sauvée de justesse. Je pense qu'il y a eu quelque chose. J'ai été quand même, je suis quand même...
Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu cette...
J'avais du mal à marcher, à récupérer.
Oui,
oui, j'ai fait une infection, comment on appelle ça, une... Il y a un nom, j'ai fait une infection, une grosse infection.
Ah oui.
Et j'ai mis une semaine pour me redresser. Ouais, c'était compliqué cette opération d'appendicite. Et je pense que peut-être que ça est venu pour me sauver, peut-être.
C'est possible. C'est possible qu'il y ait un message qui est passé à ce moment-là.
Il y a quelque chose qui s'est passé. Et depuis, je fais des rêves prémonitoires. Mais que sur la naissance, la mort et le mariage. pas sur autre chose.
La naissance, le mariage, c'est plaisant, mais la mort, on s'en passerait, hein, parce que bon.
Ah oui, la mort, quand je vois le personnage et je vois, en général, quand je vois la mort, c'est ou alors je vois la tombe, ou alors je vois la personne en train de mourir, ou alors je la vois à l'hôpital. Alors c'est des scènes que je vois en vrai.
Ah oui. Et qui se produisent.
Qui se produit, oui. C'est fou. Et du coup, je parle plus de mes rêves parce qu'avant, je parlais beaucoup de mes rêves. On me dit, ah, mais toi, tu rêves trop. Et puis, tu vois, je t'ai dit que.
Non, c'est pas trop.
Oui, oui. Et du coup, j'essaye de. Ce que je vois, des fois, je le garde pour moi parce que des fois, c'est pas des bons trucs. Des fois, c'est. Et tu vois, et j'ai l'impression que les gens, ça les dérange. Quand on parle de nos rêves, c'est comme si on les dérangeait. Ils aiment pas trop en entendre. Tu vois ce que je veux dire, Vanessa?
Mais ça leur fait peur, surtout. Ça leur fait peur. Bah oui. Sabrina, tu pars pas? On a un son là que tu vas faire partir.
Okay,
Anthony,
y a pas de soucis,
tu ne pars pas. Je te garde, ma chérie. D'accord?
Oui, il y a pas de soucis.
Alors, on va parler aussi d'autre chose. Parce que j'avais aussi un autre sujet. Enfin, un sujet. Un petit coup de gueule. Voilà. Donc, je pense que ça va te plaire. Voilà, chers amis et les autres. Allez, je vous attends. 01 53 48 3000. Remplissez-nous ce standard. Sinon, on ne vous passera que de la musique. Hein, tant pis pour vous. OK? Allez, bonne écoute. C'est un son que je vous ai concocté. C'est réfléchi, hein.
J'adore.
Voilà, aujourd'hui. Tu adores? À chaque fois que je choisis mes sons, Anthony me dit qu'il adore. Donc,
et
j'ai bon goût, alors.
Tu sais pourquoi?
Non, je sais pas.
Parce qu'il y a des personnes que j'aime bien dedans.
Ah!
Voilà, je ne dirai pas le nom.
Ah non, dis pas. On laisse
les auditeurs et auditrices reconnaître le son. Et en plus, je l'ai préécouté. Donc.
D'accord. Génial.
Je savais déjà que je le connaissais, donc.
Formidable. Bah, écoute.
Incroyable.
Tu vas te faire plaisir, puis on va faire plaisir à nos auditeurs, auditrices adorés. À tout de suite. Bonne écoute. Eh oui, alors donc à tous les haragas, hein, que c'est une leçon, ça. Donc il y a Qata' al-Bhour, Wesh Dek, Titmahen, Muntat, Grib, ou Dor. Voilà, donc c'est une leçon, c'est un message, et j'espère qu'il passera. Bledness, c'est pas toujours ce qu'on attend, hein, d'accord? Donc. Les mirages du départ, et beaucoup meurent en mer, malheureusement, hélas. Et oui, parce que attirés par les mirages qui restent des mirages. Alors c'était Rimka, Khaled et Mohamed Lamine. Vous avez reconnu la voix de Mohamed Lamine? Une voix de rossignol, moi je l'appelle. Mohamed Lamine, il a une voix. Oh, moi ça me fait vibrer. Voilà, donc c'est un message. Il faudrait que ce message passe à tous ces jeunes qui partent de chez eux, qui pensent aller trouver la lumière ailleurs. Et non, la lumière, souvent, vous trouvez de l'obscurité. Voilà, chers jeunes, faites attention. 01 53 48 3000, très belle chanson, vraiment, avec Rimka, les arrangements de Rimka, magnifiques. Khaled, j'en parle même pas. Khaled, c'est le roi. Je peux pas vous dire mieux. Le roi du rail. Et Mohamed Lamine, eh bien, c'est une voix exceptionnelle. Exceptionnelle. Incroyable. Pour un homme. Ah oui, exceptionnelle. Moi, je l'ai vu en concert, je l'ai vu même en privé, parce que c'était un ami à des amis, etc. Et je l'ai vu en privé, je l'ai vu vraiment chanter comme ça, en a cappella. Mon Dieu, sa voix. À lui tout seul, il fait tout un orchestre. Que vous voulez que je vous dise. Voilà, chers amis, 01 53 48 3000. Alors, aujourd'hui, j'ai poussé un coup de gueule, Sabrina. Sabrina, tu es toujours là. Tu as aimé la chanson, Sabrina?
Oui, oui, j'aimais, oui, bien sûr, oui.
Elle est belle, oui. Hein? Ah oui.
Oui, oui.
Alors, aujourd'hui, j'ai poussé un coup de gueule. Sabrina, est-ce que tu as déjà entendu l'expression algérienne? Elle est typiquement algérienne de ces dernières années. Elle n'existait pas il y a 30 ans en arrière. Les hommes. Alors, écoute bien, hein, les hommes. Non, toi, à Grenoble, on est là, dans ton coin, là-bas, on n'entend pas trop cette expression. Les hommes, c'est une expression algérienne qui a été inventée de toutes pièces ces dernières années. Qu'on entend par-ci, par-là, moi qui me sors, mais par les oreilles, par les yeux, par tous les pores de la peau. Je n'en peux plus. Quand je vois des vidéos où ils se tapent, tu sais, du poing comme ça, ils se tapent les poings comme ça, Zahma, ils check, et ils disent les hommes. Alors quand il y en a un, par exemple, je sais pas, qui fait un truc.
Ouais, j'ai compris.
Un truc, mais vraiment banal, voilà, qui sort pas vraiment de l'ordinaire.
Oui,
alors l'autre, alors les autres qui sont derrière, qui lui font ouais, les hommes, les Algériens, les hommes.
Mais ils ont rien compris.
Les hommes. Alors j'aime bien la liaison, tu sais, la liaison, ils ont inventé le Z. Le Z. Oui, mais là, c'est le Z. Alors le H, il n'existe plus, ça y est, il n'est pas aspiré, il est écrasé, le H. Les hommes. Alors, donc moi, j'ai envie de leur dire. J'ai fait une vidéo.
Il y a qui a dit c'est pas donné à tout le monde d'être algérien.
Alors, attends, moi, j'ai fait. Tu sais ce que je vais. Non, c'est pas ça. C'est cette expression, les hommes qui m'énervent.
Oui,
alors,
oui,
moi, les hommes. Moi, j'ai fait une vidéo aujourd'hui de quelques minutes où je parle de ça, justement, où je dis que c'est la plus inepte des expressions que je n'ai jamais entendues.
Ouais,
voilà,
c'est
les
vrai.
Hommes.
C'est vrai.
Alors, c'est ouais. pour qu'ils se remettent un petit peu en question, tu vois. Voilà, mais donc ces hommes... Juste... Là, attends, juste ouais. ça, après je te laisserai continuer pour expliquer le pourquoi du comment, si les gens ne comprennent pas. Ils ont dû déjà entendre parler. Et c'est rentré dans le langage courant. Donc les gens ne... Si tu veux, ils relèvent même plus. C'est devenu quelque chose de... Un homme normal, normal. Ils entendent... Ouais, les hommes. Ben, même les femmes, elles trouvent ça normal, leur regard, normal et tout ça. Ça prête pas à réflexion, tu comprends? Donc si, moi ça me dérange. Moi ça me dérange parce que je trouve ça d'un irrespect, mais alors abyssal. Parce que ils ont oublié que à côté il y a ces femmes qu'ils dénigrent, parce que il y a que deux sexes qui existent, hein. Il y a pas trois sexes, il y a pas dix, il y a deux, hommes et femmes. Donc il y a les hommes et les femmes. Donc si quand il y en a un qui fait un truc qui sort un peu de l'ordinaire et puis on dit oh les hommes, voilà. Donc ça voudrait dire que les femmes qui sont leurs mères, leurs sœurs, leurs épouses, des femmes courageuses, hein, qui travaillent et qui lavent leur linge, leurs chaussettes, qui leur font manger, tout ça et tout, bah, elles sont mises carrément vraiment loin derrière, puisqu'on met en avant le fait d'être, tu vois, d'être hommes. Voilà, c'est ça qui me, comme si c'était des surhommes. Donc, alors moi je les ai, j'ai parlé dans la vidéo de toutes ces femmes algériennes mujahidettes, parce qu'il n'y avait pas que des mujahidines, il y avait des hommes. Les hommes, les mujahidines de l'époque avant 62, qui ont combattu, qui ont lutté pour arracher, parce que ça, l'indépendance, elle s'est arrachée, hein, elle n'est pas arrivée sur un plateau d'argent. Donc pour arracher cette indépendance, ils ont lutté, hein. Eh bien, au péril de leur vie, ces hommes, les vrais, avant 62, tout dans le silence, hein, ils travaillaient, ils étaient très jeunes, hein, ils œuvraient pour recouvrir la liberté et pour que ces jeunes, aujourd'hui, qui disent les hommes, aujourd'hui, puissent avoir un passeport vert, vivre librement sur leur terre, etc., grâce à ces hommes d'avant 62 et ces femmes aussi. Ces hommes d'avant 62, ils n'auraient jamais, peut-être ils se retournent dans leur tombe quand ils entendent ça, parce qu'ils n'auraient jamais osé s'exprimer de la sorte. Parce que c'est méprisant pour les femmes. Parce que à côté de ces hommes de l'époque, avant 62, les mujahidines, la yarhamoum, salihoum, shuhada, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils savaient qu'il y avait des femmes à côté. Des femmes dans les villes. Là, il n'y a qu'à regarder la bataille d'Alger. Ces femmes qui étaient très jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui n'avaient pas peur. Je veux dire, elles n'avaient pas peur. Hein. Elles savaient qu'elles allaient mourir. Mais elles y allaient parce qu'elles luttaient, elles combattaient, elles ont donné leur vie pour l'Algérie, pour l'indépendance, ces femmes, ces mujahidettes. Donc ces hommes qui étaient à côté, les mujahidines, qui étaient aidés de ces femmes, parce que sans ces femmes, l'indépendance, mon œil, on l'aurait jamais eu. Donc c'est grâce aussi aux femmes, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui étaient à côté, qui les ont beaucoup aidés, voilà, qui ont aidé, qui ont œuvré, autant que les hommes, et qui étaient dans les villes, à Alger, en Algérie, dans les grandes villes, et dans les campagnes, et dans les montagnes. N'oublions pas les femmes des montagnes, qui lavaient le linge des mujahidines, qui cachaient ce linge, quand il les mettaient à sécher, qui se cachaient, parce que si les militaires français arrivaient, qui trouvaient du linge de mujahidines, ces pauvres femmes étaient torturées, et ces femmes dans les montagnes, elles faisaient à manger, préparaient à manger pour ces hommes, elles lavaient leur linge, elles les soignaient, il y avait des femmes qui soignaient les hommes, elles faisaient office d'infirmières et de médecins. Elle soignait les hommes, elle les pensait de leurs blessures, elle les pensait de leurs blessures, etc. Et ces femmes, eh bien, souvent, beaucoup, 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 beaucoup de femmes ont été enlevées, ont été torturées et n'ont pas parlé. Et elles ont été violées, etc. Donc, aide les hommes qui disent les hommes aujourd'hui, aide les jeunes. Aujourd'hui, ils nous ont inventé une nouvelle expression, les hommes. Vous avez oublié ces femmes? Jamila Bouhirad, Zohra Drif, Hassiba Ben Bouali, aux quatre coins de l'Algérie, toutes ces femmes, et toutes ces femmes anonymes aussi, qui sont vos arrière-grand-mères et vos grand-mères, et parmi elles, beaucoup sont mortes, dans les djebels, dans les montagnes, etc. Eh bien, quand, à chaque fois, quand vous ouvrez la bouche pour dire les hommes, n'oubliez pas ces femmes, ces mujahidettes. Moi, je voudrais que vous, à ce moment-là, vous ayez en présence d'esprit, Had Mujahidat qui ont donné leur vie, qui ont été condamnés à mort, enchaînés. Moi, je vous parle de Jamila, les Jamilettes, etc. qui étaient enchaînés. On les a vus dans les photos des archives. Vous pouvez les retrouver, hein. Enchaînés. Toutes jeunes qu'elles étaient, elles avaient même pas 20 ans, Hakdek. Et elles arboraient un sourire. Un homme nor, fait Outoum. Nor. Vous savez ce que c'est nor? Magnifique, une beauté naturelle. Elles avaient une aura. Eh bien, parce que, dans leur regard, leurs yeux pétillaient, il y avait la liberté. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Elles faisaient tout ça pour la liberté. Pour la liberté de leur terre. Voyez-vous, qui était ce qu'il y avait de plus cher pour elles. Voilà. Donc, vous voyez, ces femmes, elles étaient arrêtées, menottées, mais pour une cause. C'était pas des criminels, hein, c'était des femmes qui œuvraient, qui travaillaient pour l'indépendance. Eh bien, quand elles étaient arrêtées, regardez les vidéos et les photos de l'époque, elles arboraient un visage rayonnant, le menton haut, comme ça, fier. Elles n'avaient pas peur. Elles savaient qu'elles étaient condamnées à mort, mais elles n'avaient, voilà. Mais elles étaient fières de ce qu'elles faisaient, et elles y allaient, parce que c'était des combattantes des Mujahidettes. Voilà. Alors, pour elles, vous, les jeunes aujourd'hui, que vous n'avez rien connu, mazal halib ta'imma comme dans votre bouche, hein, le lait maternel, il est encore, il a pas séché dans vos bouches, que vous nous sortez les hommes. Alors pensez à ces femmes de l'époque et ces hommes qui étaient à côté de ces femmes qui n'auraient jamais osé dire les hommes. Parce que pour eux, il y a ces femmes qui ont tellement, tellement œuvré et dont ils étaient si fiers et au grand jamais ils auraient dit nous les hommes. Non. Voilà. Donc, vous, les hommes, aujourd'hui, sachez que en chacun de vous, il y a une femme, voilà, qui sommeille. Voilà. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire, Sabrina, mon petit coup de gueule. Parce que j'en ai... Ah oui, mais j'en ai marre.
Je trouve qu'on ne fait pas assez honneur, justement, à ces anciens en France. Je trouve qu'il y a pas, on ne leur rend pas assez hommage. Et puis, ces hommes, comme tu dis, qui disent on est des hommes. Moi, je pense que ces gens-là, ces hommes-là, on va dire, je pense qu'ils ont un complexe d'infériorité. Alors, ils essayent de se valoriser avec des mots comme ça, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient des hommes? J'aimerais bien savoir, moi, quand ils parlent comme ça.
Non, mais c'est même pas mais... qu'ils soient des hommes. Même pas, tu sais, qu'ils soient des hommes. Oui, c'est le sexe masculin. Être un homme, c'est être du sexe masculin. Être une femme, c'est être du sexe féminin. C'est tout. C'est pas les biscottos, hein, qui font des surhommes ou des sur, voilà.
Non. Bah, déjà, moi.
Moi, c'est le mépris, c'est le mépris, tu comprends? Parce que quand on dit les hommes, quelque part, c'est comme si être un homme, eh bien, ça veut dire être un être supérieur.
Ils étaient supérieurs, ils avaient une puissance, ils ont. Alors que, en vérité, non, ça veut rien dire du tout. Mais justement, je pense que. Parce que tu sais que je suis très féministe, moi, je suis du côté de la femme, hein, je défends plus la femme. Bon, les hommes, je les défends, mais. Voilà, il y a des limites. Mais tu sais que moi, je pense que la femme, elle est beaucoup plus courageuse, beaucoup plus honnête, hein, et beaucoup plus forte que l'homme. Mais je ne parle pas de
déjà,
la
femme, elle porte un enfant durant 9 mois. J'aimerais bien savoir quel est le homme qui a porté 9 mois dans son ventre un enfant et mettre au monde un enfant. C'est très dur. Alors c'est facile
je pense
de dire
que l'homme est plus dans le matériel quand il accompagne la femme que dans le comment t'expliquer que dans la patience tout ça parce que la femme est beaucoup plus patiente. Moi je trouve qu'elle est beaucoup plus patiente que l'homme. Mais quand la femme elle a son mot à dire, je pense qu'elle peut être plus dangereuse qu'un homme parce qu'un homme il va parler, il va faire des choses directes mais ça va pas aller plus loin, il va être beaucoup plus fragile que la femme. La femme elle a quand même cette force, même si on la détruit, elle a quand même une force pour se relever que l'homme non. L'homme il se relèvera mais très mal.
Alors j'ai Selem qui a envoyé un message sous ma vidéo sur YouTube où il dit alors Iskander, il s'appelle. Pardon, c'est pas Salem. Salem, il dit Salem. Non, j'ai pas compris. Non, il s'appelle Iskander. C'est joli, Iskander. Oui. Il dit, j'ai jamais compris cette expression non plus. Pourtant, algérien d'origine. J'ai honte quand je l'entends. C'est d'un pathétique. C'est le langage populaire de la rue quand on dit les DZ, les hommes. Alors attends. Les hommes. Alors il dit, c'est pour dire les vaillants quoi, les braves. Encore une expression lugubre et bancale. Qu'on aurait bien pu se passer. Je te rejoins tout à fait. Arrête. Alors il termine en disant arrêtez de dire les hommes. Il met plein de hauts. Vous êtes des. Alors là c'est dur ce qu'il met. Il dit vous êtes des omelettes. Non c'est lui qui
des
dit.
Hein,
c'est pas moi qui dis ça. Non ça c'est Iskander parce que et c'est un homme qui le dit. Hein, voilà. Donc si tu allais écoute, Iskander, j'ai lu ton message.
Mais c'est vrai, j'aimerais bien savoir, les femmes, si tu les interroges, pour elles, c'est quoi un homme? Parce que moi, quand je dis un homme, pour moi, un homme, c'est un homme qui... Moi, je le vois
non,
comme
mais
ça,
on n'est même pas pour juger ce non, que c'est qu'un homme ou une femme.
Oui, mais ouais, c'est juste.
Non, mais moi, c'est juste l'expression qui me dérange. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, cette expression, elle est chargée de sens.
Elle est malsaine. C'est voilà. Ça que tu veux dire, elle est malsaine. Parce que la façon comme il le dit,
elle est même pas malsaine, elle est bête. Voilà. Elle est inepte.
Elle est d'une absurdité,
mais phénoménale. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réfléchi. Ils ont mis ça. On est des hommes.
Ouais.
Donc les hommes. T'as l'impression d'entendre, tu sais, j'avais l'intention d'entendre Cro-Magnon, tu vois, ils nous ont plongé dans l'Antiquité. Cro-Magnon sortir de sa grotte et me dire je suis un homme. On va prendre Fatima avec nous, Sabrina. Tiens, ta copine.
Ah, là, Fatima, Habibti.
Bonsoir, Habibti.
Bonsoir, Habibti. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Habibti. Ça va?
Oui, bonsoir.
Ça va,
oui,
Sabrina?
Bonsoir, Fatima.
Oui,
je disais à Vanessa, je remercie Fatima Habibti parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on m'a beaucoup critiqué et tu as été la seule, je t'ai vue là au milieu, là. Mais non, il ne faut pas lui dire ça.
Écoute-moi, Sabrina, moi, je pars du principe que débattre, c'est bien, mais toucher les gens par le mot haineux, ceci, cela, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais débattre des idées.
J'ai un franc-parler, Fatima. Moi, j'ai un franc-parler et je dis que je reconnais ce que je vois dans la vie de tous les jours.
Mais tu as le droit.
Mais les gens, ils ferment les yeux, ils ne veulent pas le reconnaître et ils me mettent toujours dans. Ils pensent que je suis raciste. Mais non, ce n'est pas une question de racisme. Ce n'est pas parce qu'on dit des choses qu'on n'est pas d'accord qu'on est raciste.
Exactement.
C'est pas une question de racisme. Si j'étais raciste, je parlerais pas, j'irais pas parler à Vanessa, je ne parlerais pas à la radio.
Bon, est-ce qu'on peut rester sur notre thème, là?
Oui, le thème,
Fatima.
Bon, écoute-moi.
Les hommes qui disent on est des hommes, c'est vulgaire.
Habibti.
Oui,
Vanessa.
Oui, oui. Oui, ma chérie.
À chaque fois que tu parles de délinquance ou de cette question des hommes, je te pose une autre question, moi. Est-ce qu'autour
de toi. Moi, je ne parle pas de délinquance, là. Non, là, on parle de. Les hommes.
Non, je sais.
Cette expression.
À chaque fois, à chaque fois que je te pose cette question, je te dis est-ce qu'il y a autour de toi des personnes qui utilisent ce terme?
Dans ma famille, non.
On l'entend surtout dans des groupes.
Mais je l'entends. Je l'entends de plus en plus à l'extérieur. Ouais. Je l'entends sur des vidéos. Je l'entends dans des aujourd'hui de plus en plus. Et je trouve que je m'étonne que les femmes ne dénoncent pas.
Mais j'en avais parlé, moi, une fois, Vanessa, je t'en avais parlé une fois de
ça. Oui, mais non, mais ça, les hommes, non, mais je parle de l'expression.
Mais ces gens-là ne représentent pas les hommes avec H-O-2-M-E-S.
Non, c'est avec un Z.
C'est
eux,
pour ça que j'insiste.
Parce qu'ils sont loin d'être des hommes.
Ah, j'en sais rien. Mais attends, vous perdez. C'est pas ça. Non. Si, c'est des hommes, puisqu'ils sont de sexe masculin.
Au sens propre du mot.
Oui, mais non, ils sont des hommes, forcément. Au sens propre comme au sens figuré. Mais ce qu'on reproche, c'est de si tu veux, le mépris à l'égard des femmes. Parce que ça sous-entend, ce qui sous-entend ce terme de les hommes. Hommes, tu sais. Genre, nous, on est des êtres supérieurs. C'est ça qui est agaçant.
On est des dominateurs.
Voilà, c'est ce terme. Oui. C'est juste pour leur dire, écoutez, allez, un peu d'humilité, vous ferez pas de mal. Et un peu de réflexion. Réfléchissez avant d'ouvrir votre bouche et de dire, les hommes, les hommes. C'est idiot. Vous vous trouvez pas idiot, franchement. Vous avez... Et ça, c'est très chez nous. C'est en Algérie. Hein. C'est les jeunes de cette génération. Puisque les 50 ans et plus ne connaissent pas ce terme. C'est les trentenaires, les 20 ans, les trentenaires jusqu'à 40 ans, c'est ceux-là qui tiennent ce genre de disque, cette expression, elle sort de leur bouche. Moi, je l'ai entendu en Algérie. Si vous prenez n'importe quelle vidéo, Fulbled de Tadzeir, vous allez voir, les hommes, les hommes, les hommes. C'est ça qui est tuant. Et ça, c'est typiquement algérien, puisque cette expression, elle est née, elle est chez nous, quoi. Voilà. Oui, tu disais, Fatima.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que comment dirais-je, c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire quand je te pose la question autour de toi, c'est-à-dire quand c'est des gens éduqués.
Ah punaise, c'est autour de moi, il y en a qui dit ça, oulala, mais il va m'entendre. Hein.
Mais c'est pour ça que je te pose la question. Moi, autour de moi, ou même dans le voisinage, ou quand je sors, ou quand je suis là-bas et tout, je les entends pas déjà parler de cette manière, mais c'est juste sur le fait de sorte de excuse-moi du terme de raté dans les vidéos et tout, ils veulent se faire boire.
Non, ils le disent même dans la rue, ils le disent. Tu rigoles ou quoi? Parce que tu parles pas avec eux. Quand il y a quelque chose, par exemple, je sais pas, un truc que quelqu'un a fait, il va lui dire, ah, les hommes, Roya, les hommes. Voilà. Je prends les vidéos, tu vois. Quand tu dis ça, quand tu dis, ah, Roya, les hommes, parce que tu les côtoies pas, quand tu dis ça, et alors, vas-y, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? T'es en train d'insulter ta mère, t'es en train d'insulter ta sœur, ta femme, etc. Ouais, et t'es en train d'insulter surtout toutes ces femmes vaillantes, ces moudjahidettes, les djebelkoum, les stiqlel, les lyoum, taboulkoum, la possibilité de faire fondre que je trouve les hommes.
Et puis, il insulte plutôt sa mère et sa sœur.
C'est incroyable. Il ne se rend même pas compte. Mais elle est belle ou je gâte, Dénia.
Qui met le goût derrière chaque homme, il y a une femme.
Attends, sa mère, elle l'a mis au monde. Elle l'a porté 9 mois pour coller les hommes. Il a fait quoi? Il a fait la guerre? Il n'a rien fait? Halibi, mais elle fait fondre.
Non, mais c'est ça. C'est un complexe d'infériorité, Vanessa.
Exactement.
Les hommes qui parlent comme ça, ils ont un complexe d'infériorité. Alors, ils essayent de se rattraper sur des expressions pour se valoriser, mais ils se ridiculisent.
Le pire dans l'histoire. Alors les filles, le pire dans l'histoire, c'est que certains, les pauvres, hein, malheureux, comme il y a pas de réflexion beaucoup, ils répètent bêtement. Mais les belhommes, ce qu'ils disent.
Mais les
belhommes.
C'est belhommes. Il y a quelque chose qui sort.
Mais les belhommes. Voilà, c'est sorti. Voilà. Donc c'est courant, on le dit. On a Shana qui veut s'exprimer avec nous. Shana Samia, notre conductrice de bus, la courageuse.
Shana,
la zom, c'est une zom.
Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, Shana. Bonsoir,
Sabrina.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Bonsoir.
Oui, j'y vais.
Shana, les zoms.
Oui, justement, Shana.
Les zoms.
Shana, c'est une défaite parce qu'elle conduit la nuit, alors, déjà.
Voilà, mais c'est ce que je raconte.
Bienvenue, Shana. Alors, vas-y.
Merci, ma Vanessa. En fait, j'ai pris l'émission de cours parce que là, je commence mon service. Et j'ai entendu ce thème, mais j'ai sursauté parce que je l'ai entendu il y a 3 jours.
Ah, bah
donc,
voilà.
Comme tu le sais, Vanessa, je suis déléguée syndicale au sein de la société où il y a quand même 720.
Oui.
Et donc, du coup, je suis déléguée syndicale et là, on est en pleine élection syndicale. Donc, on est qu'une femme déléguée, étant donné que malheureusement, on est minoritaire. Et j'ai mon collègue, justement, qui est délégué syndical avec moi, qui m'appelle, il me dit, écoute, Shana, il faudrait qu'on pointe ce qu'on va faire, qu'on pointe aux actes et tout. Je lui dis, bah, écoute, je travaille de. Il me dit qu'il me gagne en tête. Il me dit, bah, écoute, moi, Jean-Luc, elle est juste top. Il dit, les hommes sont enfin là.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Oui, il a dit, les hommes sont enfin là. Je lui dis, mais...
J'ai pas compris, les hommes sont...
Les hommes avec un Z, sont enfin là.
Ça veut dire quoi, ça, là? J'ai pas compris.
Ça veut dire, ils sont enfin arrivés. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, comme il y a plusieurs étiquettes syndicales, il y a la CGT, il y a EFO, il y a UNPA. Genre, nous, la CGT, on est enfin arrivés. Les hommes de la CGT sont enfin là pour vous sauver, en fait, en gros. Et je lui ai dit, mais attends, je lui ai dit, mais t'es malade dans ta tête. J'ai dit, premièrement, c'est complètement discriminatoire pour moi, parce que je suis conductrice parmi 700 hommes et qu'on est quand même 2 femmes déléguées syndicales. Et je lui ai dit, mais avec tout le respect que je te dois, il n'y a aucune femme sur Terre qui va voter pour toi avec un tel slogan. Je lui ai dit, là, tu ne me respectes pas, tu ne respectes pas toutes les conductrices de la planète et tu ne respectes aucune femme.
Oui.
Et donc, j'ai vraiment eu plus de 20 minutes à lui expliquer que le terme n'était pas du tout adapté dans la société dans laquelle on vit, parce que les femmes, aujourd'hui, elles ont leur part dans la société, dans les métiers d'hommes. À la fois les métiers d'hommes, elles ont créé des associations qui n'oublieront pas ce qu'elles ont fait par le passé, Kaina et tout ça. Donc, j'ai lui même raconté l'histoire de Kaina pour qu'ils comprennent, et Marie Curie, et j'en passe.
Mais
j'étais vraiment choquée, Vanessa, et m'a dit, on va mettre « les hommes sont enfin là ». Je lui dis, mais pourquoi moi je porte un pantalon? Je suis quoi? Je suis pas une femme, non?
Tu vois, non, mais c'est ça.
Je me suis vraiment sentie mise à l'écart. J'ai dit, ça fait 10 ans que je suis déléguée syndicale, en fait, je suis de la merde.
Ouais, ouais. Ah oui, oui, non, mais c'est fou, hein, c'est fou parce que c'est. Tu vois, derrière cette expression, il y a quelque chose qui est véhiculé, oui, tu as raison.
Moi, si c'est un métier masculin, je vous assure que je l'entends tous les jours. C'est fou. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Les hommes, oui, on l'entend, ça.
Ah ouais,
c'est. Oui, elle a raison parce que moi, j'étais dans le comité d'entreprise, justement, d'un syndicaliste, dans le milieu hospitalier, c'est exactement la même chose, Chana.
Ah ben voilà, ben voilà.
Voilà, quand tu vas à une réunion et puis que voilà, tu es là pour parler et tout, et ben il y aura toujours un homme qui viendra, ils sont trois, alors ils vont pas t'attaquer tout seul, ils vont être à plusieurs, mais essayer de dire la parole de la femme n'est pas valable, quoi. Voilà.
Déjà, honnêtement, la société nous discrimine un petit peu quand tu vois que par exemple dans le syndicalisme, ils sont deux femmes, une femme titulaire, une femme, je suis désolée, c'est pas normal.
Voilà, une titulaire et une...
Voilà, c'est pas normal. Donc là, on va faire des listes avec 13 candidats, mais il n'y a qu'une seule femme. Et c'est pas normal.
Ouais.
Donc, il faut qu'on... Mais voilà, mais en tout cas, c'est un terme que j'entends tous les jours dans le milieu d'hommes, en fait. C'est un terme qu'on utilise énormément. Et moi, ça me choque même pas parce que... Et c'est souvent les Algériens, malheureusement, qui l'utilisent.
C'est fou, hein? Ça a été, c'est ça. Ouais. En fait, c'est du. Mais c'est quelque part derrière ce terme, c'est méprisant parce que quand tu regardes, et puis en plus. Et puis je me rends compte qu'il répète comme des perroquets.
Non, mais c'est ce que je lui ai dit après.
Sans réflexion.
C'était son nom, je lui ai dit, mais je veux juste que tu m'expliques qu'est-ce que tu entends par les hommes. Il dit, on est des bonnes, quoi, on va leur montrer qui on est. Je lui ai dit, pourquoi moi je suis quoi, moi? Ça veut dire que moi, depuis 10 ans que je suis déléguée, j'ai rien fait.
En fait,
j'ai utilisé ma propre personne pour lui faire comprendre, en fait. Il me dit, mais non, mais j'ai pas voulu que tu le restes. Ben, je dis, c'est ce que tu es en train de faire. Ben, alors, dans ce cas-là, on met des hommes et des femmes. Là, je suis d'accord.
Ben voilà, au moins.
C'est compliqué, hein, la communication entre les hommes et les femmes dans le milieu entreprise. Hein. C'est vraiment compliqué.
Surtout que dans notre...
chauffeur de bus, je pense que ça doit être... Oui.
Ben, en fait, déjà, ils ont du mal à accepter que nous, les femmes, on fait le même métier qu'eux. Voilà. À salaire équivalent, et qu'ils ont du mal, et honnêtement, ils ont du mal. Moi, souvent, ils me disent, mais ton mari, une fois, il y en a, il m'a frappé, il me dit, Chana, je te pose une question, je dis, bien sûr. Il me dit, ton mari, ça ne dérange pas que tu travailles la nuit.
J'aime bien. Une
question,
j'adore.
Ça ne dérange pas que tu travailles la nuit. Ouais. Bah, non, moi, mon mari, au contraire, il est fier de moi, enfin, je ne sais pas. Il est fier d'avoir une femme indépendante, autonome, je ne vois pas où est le problème, en fait.
Ben, moi, je te tire mon chapeau, hein, bravo. Hein.
C'est fou.
En
hein.
tout cas, si je gagne les élections, je vous enverrai mon panneau syndical avec marqué la victoire des femmes.
Voilà, exactement. On compte sur toi. En tout cas, tu as gagné. Tu as gagné nos cœurs.
Je vous apporter ce petit témoignage parce qu'il fallait vraiment. Il faut arrêter, quoi. Et surtout à tous mes collègues, arrêtez. On est votre équivo. Comme je dis des fois à mes collègues, je dis, mais t'as quoi depuis que moi je conduis le même bus que toi et j'ai le même salaire à la fin du mois. Donc pourquoi t'es supérieur? Je suis désolée. Aujourd'hui, moi, il y a deux jours, j'ai croisé une dame. Oh, je sais pas, un petit bout de chou. Elle est comme moi, toute petite, toute menue, dans un semi-remorque. Je me suis arrêtée et je lui ai fait des pouces parce que j'ai trouvé ça génial.
Mais bien sûr. Et même au-delà.
Voilà, aujourd'hui, il faut dire que les hommes et les femmes, on est égales dans la société. Il faut juste savoir s'imposer, c'est tout.
Voilà.
Je pousse les femmes à venir faire ce métier. Et là, on recrute. Là, actuellement, il manque plus de 10 000 chauffeurs. Donc,
Chana.
Oui,
Chana. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de femmes chauffeurs de bus. Peut-être que c'est ça le problème.
Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, avant, les femmes, elles avaient vraiment peur à appréhender ce métier. Les horaires de nuit, les horaires décalés, les enfants et tout. Puis maintenant, le métier, il a beaucoup changé, il s'est aménagé. Et puis souvent, on voyait les femmes conductrices de bus comme des camionneurs qui ne sont pas du tout féminines. Je suis très féminine, je prends soin de moi, je fais du sport. Je suis super petite derrière mon bus. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème. Et maintenant, les femmes, elles l'abordent différemment. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes, hein, il faut être honnête, c'est un métier où on gagne très bien sa vie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se redirigent vers le métier de chauffeur de bus. Beaucoup,
c'est ce que j'ai remarqué. Il y en a de plus en plus.
Tu vas donner des idées ce soir.
Dans le cas, je lance un appel. Il y a 10 000.
Voilà.
Actuellement, il y a plus de 10 000 femmes à pourvoir. Sachez qu'actuellement, Pôle emploi, vous avez juste à aller sur Internet, vous tapez recrutement conducteur de bus. La formation dure 4 mois, elle est complètement rémunérée. Pour 8 000 euros. Elle est rémunérée, vous n'avez pas un centime à sortir de votre poche.
Et bien,
vous repartez avec un CDI.
Écoute, ça fait plaisir.
Et honnêtement, allez-y, mesdames, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Je suis très épanouie, je suis très heureuse dans mon métier.
Eh bien, chapeau.
Ça s'entend.
Merci
Chana, beaucoup. Chana, je te fais de gros bisous.
Bravo, de courage.
Et plein de bonnes choses.
Gros bisous. Merci beaucoup, gros bisous.
À bientôt, ma chérie. Chana va reprendre son poste là tout de suite. Elle va reprendre son bus. Ouais, elle va être au volant. Puisqu'elle vient. avec Shana, c'est j'aime que pas. Elle partage. Elle partage. Non, mais
moi,
elle
écoute. J'adore, moi.
Alors, elle écoute Beurre FM. Alors, elle écoute Confidence tous les soirs. Et elle partage justement l'écoute avec ses passagers, hein, les clients. Non, ça, c'est pas, c'est un bateau, ça, c'est pas
non,
bon.
Non, c'est un bateau. Écoute, j'ai regardé dans la base de données.
C'est horrible.
Klaxonne de camion.
Oh là là, de camion. C'est pas un camion, hein. C'est un bus, un petit bus.
Bah attends, je vais chercher ça, bus. Alors.
Bon, on va écouter un son que je vous ai concocté. Alors donc, bon, allez, je vous cache pas, c'est Clara Luciani. C'est une chanson que j'adore. C'est Respire. Comme ça, on va respirer. Oui, tu pars pas, hein.
Je pars.
Pourquoi tu pars? Tu restes là, je te garde, hein. Allez, respire, Fatima. Sabrina aussi. Et les autres, on vous attend. 01 53 48 3000, venez nous dire ce que vous pensez de les hommes. À tout de suite. Toi qui nous écoutes de là où tu te trouves ce soir. Voilà. Ben oui, là où tu te trouves ce soir, si tu traverses des moments difficiles, dis-toi que tout passe dans la vie. Oui, tout passe, tout lasse et tout casse. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel, surtout. D'accord? Donc, tes problèmes, tes soucis du moment, je sais que tu m'écoutes quelque part, je ne sais pas. Vous êtes nombreuses et nombreux, hein, mais je m'adresse à vous individuellement. Eh bien, dis-toi une chose, que tout passe dans la vie, que rien ne dure. Les belles choses ne durent pas, n'est-ce pas? Eh bien, les autres aussi ne durent pas. Tes épreuves, tes difficultés que tu traverses ne dureront pas. Voilà. Donc, respire encore. Ok, et on est là pour te donner le souffle, si t'en manques, n'est-ce pas Fatima et Sabrina? Vous êtes là, les filles? Allô, allô?
Oui, on est là. Oui.
Vous êtes là, respire encore. Oui. Ben oui, on est là pour remonter le moral à celles et ceux, hein, qui en ce moment traversent des moments difficiles. Et Dieu seul sait s'il y en a, hein.
Bah moi je vais penser à toutes les femmes justement. Bah on va parler un peu des femmes,
oui.
du féminicide des femmes, de toutes les femmes qui sont battues et qui souffrent la douleur dans leur foyer à cause des hommes, comme ils disent eux là, le mot la zomme là. Et voilà, je pense à ces femmes là parce que c'est il y a pas plus terrible de vivre chez soi avec un homme qui la martyrise, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis oui, voilà, comme tu dis, Vanessa, c'est des expressions. Il faudrait être un peu plus intelligent dans son cerveau et arrêter de sortir.
Et c'est bien de parler des féminicides. C'est très bien d'en parler. Il faut les évoquer.
Ah oui.
Parce qu'il y en a de plus en plus.
Il y en a
hein,
tous les jours.
Hein. Ouais.
Il y en a qu'on n'en parle pas, qu'on diffuse pas à la télé, mais il y en a tous les jours, hein, Vanessa, tous les jours.
Non, mais c'est ce que tu dis, c'est une réalité. Il y a trop...
Moi, tu dis, il n'y a pas longtemps, à côté de chez moi, une jeune fille, 22 ans, 11 coups de couteau. Voilà.
Ah oui? Oh mon Dieu.
Ah oui, par son homme, quoi. Comme ils disent, leur homme, là. Ouais, 11 coups de couteau, elle est toujours en coma.
C'est terrible. Oui, bien sûr
l'autre
Oui.
L'autre de machin, là, de. Comment ça s'appelle? Début de chemin.
Oui. Asia. Oui, Asia, elle s'appelle. Asia.
Ah, oh là là,
et qu'on n'a pas retrouvé encore l'auteur, l'assassin, le criminel.
Il paraît qu'il fait une enquête.
Et donc, on ne sait pas qui, hein, parce que l'enquête est en cours, donc on ne va pas s'avancer à dire n'importe quoi.
Trois enfants, la pauvre.
Absolument. Et cette femme, cette pauvre malheureuse qui a été retrouvée
dans le parc. Tu sais, Vanessa, quand j'entends des affaires comme ça, des décapitations, je dis, mais on vit dans quel monde? Mais franchement, décapiter un corps, c'est horrible, hein. Oh, j'ai dit,
décapité, découpé en morceaux.
Le problème, c'est que maintenant, ça devient tous les 2-3 jours, on entend un truc comme ça.
On entend qu'il y a des beaucoup de femmes qui disparaissent comme ça, ouais, et qu'on retrouve des corps. Ouais.
C'est ça.
Ouais.
On s'habituera, heureusement, jamais. Un esprit sain, ne pourra jamais s'habituer et surtout pas banaliser. C'est monstruosité, c'est atroce. C'est atroce parce que c'est vrai que on entend de plus en plus. Et là, tu viens de nous parler de cette femme qui a été retrouvée, c'est ça, à Grenoble, parce que tu es à Grenoble, dans ta région.
Oui.
Tu vois, ces derniers jours, non, c'est ça.
Oui, il y a quelques semaines de ça là.
Quelques semaines, tu vois.
Le bâtiment en face de chez moi, oui.
Voilà. Il y en a tellement que finalement que même la presse n'arrive pas à. À toutes les évoquer.
Internet, hein. Tu peux regarder, là, c'est même inscrit sur Internet, il y a l'annonce.
Ah oui.
Grenoble, jeune fille, 22 ans, 11 coups de couteau, c'est marqué, ah, tu vas voir, il y a l'annonce.
C'est abominable.
Oui, le gars, il avait 24 ans, oui.
Ah oui. C'est inouï, incroyable.
C'est pour ça que je dis, c'est tous les jours le féminicide, c'est tous les jours qu'il y en a, tous les jours.
Oui.
Alors on ne sait pas ce qui se passe, ces hommes-là qui sont en colère, pourquoi ils en arrivent à ce point-là, parce qu'il y a toujours des disputes dans les couples, il y a toujours quelque chose, voilà, il y a des hauts débats.
Souvent, tu sais ce que c'est ? Souvent, quand la femme, elle en a marre au bout d'un moment, et qu'elle veut quitter, elle veut partir, elle parle de divorce, eh bien, malheureusement, voilà. Et puis ces femmes qui sont retrouvées comme cette malheureuse au but de chemin, hein, dans le parc, elles, par contre, on ne sait pas. On ne sait pas qui, parce que l'enquête est en cours, donc on ne sait pas qui est l'auteur, on verra. Mais souvent, c'est vrai que ce sont malheureusement un ex-compagnon qui n'a pas accepté la rupture. C'est fou.
C'est la folie, quoi, parce que dans ces drames, il y a des enfants quand même. C'est ça, moi je me dis, je sais pas, moi j'aurais un coup de colère envers ma femme, mais je penserais d'abord au gosse. Je dis, bon, ben voilà, mais j'irai pas jusqu'à, je sais pas, moi, tuer, à décapiter, c'est horrible, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Je pense qu'il faut, je sais pas, peut-être faire. Il y a un gros travail à faire, justement, sur le mental. Hein.
Ah non, mais complètement. Complètement.
Ah oui, il y a un gros travail à faire.
C'est mental, j'ai envie de dire mentalité. Dans toutes les communautés, hein, on peut pas, voilà.
Oui, partout, oui, bien sûr. L'homme accepte mal la séparation.
Ouais.
C'est la peine de mort qu'il faut appliquer. C'est la seule solution.
Ouais.
Parce que faire 20 ans, faire 30 ans même, et après sortir, surtout quand on est jeune, quand on rentre à 20 ans. Donc sortir assez content, il a toute une vie devant lui. Donc ça fait pas trop peur.
Ouais.
Voilà.
En 80, elle a été abolie en France, la peine de mort, mais je pense qu'on aurait dû la laisser, mais pour certaines affaires, que pour les meurtres, tout ce qui est meurtre d'enfants, meurtre de... Voilà, tout ça, on aurait dû la garder.
Exactement.
Mais parce que depuis qu'on a aboli cette peine de mort, je trouve que c'est vrai que les meurtres ont plus que doublé.
Il y a une multiplication de ces drames, quoi. C'est crime.
Ouais. Parce que tu regardes dans les pays où il y a la peine de mort, je pense qu'il y a moins de crimes que là où il n'y en a pas.
Je sais pas. Je ne peux pas m'avancer à dire que c'est une réalité, qu'il y ait moins de crimes dans les pays où il y a des peines de mort. Je sais pas.
Je pense que on se dit toujours avant de faire un meurtre, des fois on réfléchit à deux fois si on sait qu'il y a la peine
toujours,
de mort.
Pas toujours, ma chérie, pas toujours. Ouais. Mais non, parce que ces hommes, par exemple, qui commettent les féminicides, ils savent qu'ils vont passer des années de prison, par exemple. Ces pays, ils vont se faire attraper, ils vont passer à la guillotine ou j'en sais rien. Mais dans le moment où la folie les gagne, non, ils réfléchissent pas. Parce que, si tu veux, leurs épouses, quoi, eh bien, elle leur appartient, c'est leur chose. Et le jour où elle veut les quitter, ils ont du mal à imaginer qu'elles puissent rencontrer un autre homme, refaire leur vie. Ouais, et ça, c'est tellement insupportable pour eux que, ils perdent la raison. Voilà.
Ils perdent la raison et donc
il faut pas qu'ils perdent cette raison et que personne n'appartient à personne, déjà. Personne n'appartient à personne.
Ah ben non, quand on est marié, on n'appartient pas à son mari.
On s'appartient à chacun, ça appartient à lui-même. Donc il n'est pas écrit quelque part que c'est vita aeternam. Quand ça ne va plus, on se quitte. Voilà, au lieu de commettre l'irréparable et l'insupportable.
Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait... Toi, tu penses qu'on pourrait arranger cette chose comment? Moi, je pense que...
Quand l'homme n'existera plus sur Terre, l'homme et la femme...
Faire des formations sur le couple,
je sais pas.
Il y a des médecins pourtant.
Oui, mais ils vont pas aller voir les médecins. Moi, je n'y crois pas. Je te dis honnêtement, je n'y crois pas. Je ne crois pas à la rédemption. Je ne crois pas du tout qu'un homme qui a décidé de mettre, tu vois, parce que c'est une pulsion. Et une pulsion, comment tu veux la maîtriser? Quand tu as une pulsion, tu te dis pas « Ah ben, j'ai une pulsion aujourd'hui, demain je vais aller voir le médecin, peut-être que je vais trouver une solution. » Non. Donc, voilà. Ouais. Donc, si certains sont à l'écoute, eh bien, on leur dit, quand ça va pas, vous sortez, vous respirez un bon coup à l'extérieur, vous rentrez tranquillement.
Et je pense que tout petit, déjà, il faut savoir éduquer le garçon, justement, par rapport à la femme, c'est... justement, la fille. On devrait, on devrait faire des formations par rapport à ça, justement. Parce que c'est vrai qu'il y a des familles, j'ai remarqué, surtout chez nous, le garçon est toujours plus privilégié. Bon, peut-être moins maintenant, mais il y a une époque où le garçon était beaucoup plus privilégié que la fille. Et on essayait de le monter plus que... Voilà, tu vois ce que je veux dire, Vanessa. Et je pense que déjà, au départ, déjà, on devrait faire une éducation, justement, par rapport à ça.
Oui, on arrive à la fin, les filles. Je vous embrasse merci. Fort, je vous aime. Hein.
Bonne nuit.
Bonne nuit. Oui, merci, Fatima. Oui, merci, merci à vous de terminer pour ce soir. Merci, Anthony. Je fais une petite dédicace à Julien Berck, qui est à l'écoute. C'est un auditeur fidèle. Voilà, que j'ai eu à rencontrer et un soir, j'avais, il y a quelques années en arrière, été invité gentiment par sa maman et par lui à dîner chez eux, voilà, et c'est, voilà, je tenais à lui dire que j'ai beaucoup apprécié et que je garde un très bon souvenir et que je l'embrasse très fort, Julien, je t'embrasse fort, et ainsi que ta maman, donc Julien Berck, qui est le fils de Jacques Berck, qui est très connu d'ailleurs, hein, puisque Jacques Berck a écrit, c'est un islamologue, hein, son papa qui était islamologue, et beaucoup d'autres titres, hein, qu'il avait, écrivain, etc., et qui a fait la traduction du Coran. Alors, vous voyez, la traduction du Coran, voilà. Il a passé sa vie, son papa a passé sa vie, hein, une vie entière, consacrée à l'étude de l'islam, hein, voilà. Donc, je tenais ce soir à lui témoigner toute mon amitié. Et à sa maman aussi, qui est la comtesse Julia. Voilà, elle s'appelle Julia Belmondo Katia, vous voyez, voilà. Donc j'embrasse très fort. Merci Anthony, on se dit à demain.
Merci, à demain, bonne nuit.
Allez, belle et douce nuit, chers amis, faites de beaux rêves. On vous laisse avec Rayantologie, les programmes.
Riches et variés.
Ah ben voilà, de Beurre FM. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, de 11h à midi, pour vos petites annonces. À demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.